Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue, bonjour le chat. Comment ça va les petits amis? Bienvenue, installez-vous confortablement, mettez-vous bien. Et comment ça va? Surtout, ça fait plaisir de vous retrouver, le monde est fou. Ouais, soyons fous ensemble, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Là. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Ça va et toi? Moi ça va très bien. J'ai passé un super week-end avec certaines et certains d'entre vous. On a joué à Flight Simulator et c'était cool. On aime bien passer du temps à jouer à Flight Simulator. Tu m'as envoyé en l'air tout le week-end. Grand fou, grand fou. Il faut reporter les municipales. Oh non, 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 oh non. Pitié, non. Hop là, attention, le stream est en catégorie Flight Simulator sur le téléphone. Non, je sais, mais je l'ai corrigé. C'est bon, c'est corrigé. Revérifie, non, c'est bon. Un peu le Doom ce week-end ici. Ouais, un peu le Doom. À cause de l'actu internationale ou à cause d'autre chose? Tu me diras, c'est suffisant pour doomer. Hein. Hop. J'ai mon sticker qui se détache parce qu'en fait, cette tasse, elle m'a été offerte par Pure Media, l'émission où je suis intervenu il y a 2 semaines. L'émission de T18, ils m'ont offert une tasse et le problème c'est que c'est un sticker à la con qui est collé dessus et du coup ça tient pas le lavage à la machine. Ah, j'ai des problèmes importants, hein. Voilà, donc du coup le sticker se décolle. Ouais, j'ai des problèmes importants, ouais. Faut qu'on se débarrasse de ces élections. Oh, mais dis pas ça comme ça, c'est important les municipales. C'est chouette, on aime bien. Tiens, d'ailleurs, je voulais publier en story Insta la prog de la semaine. Non, c'est pas ça. Discord, tac. Ensuite, on va sur Insta. On laisse tomber la story nulle. C'est une story d'un Américain qui dit que les avions, ça vole pas avec du fuel. En fait, c'est une énergie magique. C'est Insta, quoi. Story, nouvelle story, boum, boum. Voilà, c'est partagé. Hop. C'est fait, c'est réglé, c'est terminé. Merci, au revoir. Il est temps de dissoudre. Il est temps de dissoudre. Ah ouais, on va dissoudre le chat. Non, ça c'est mort. Et on va dissoudre l'Assemblée nationale. Ouais, ça nous manque. Une petite élection législative, là, vous le sentez? Dans l'ambiance? Comment ça se passe la campagne de ton père? Il est candidat, il me semble. Ouais, mon père est candidat. Je sais pas, j'ai pas d'infos sur sa campagne. Faut que je l'appelle. Faut juste que je l'appelle. Faut que je lui prenne de ses nouvelles. Je crois que ça se passe bien. Après, il est candidat dans un bled où il y a 1400 habitants, si tu veux. Tranquille, la campagne. Tranquille, tranquille. Il y a pas de... Ouais, c'est pas très compliqué. Il y a le vide derrière toi. Oui, il y a le vide derrière moi. Derrière, vous avez vu? Il y a plus d'arbre à chat. Il n'y a plus d'arbre à chat, c'est fini. L'arbre à chat, il est parti. L'arbre à chat, il a été, je l'ai offert, enfin, je l'ai donné à une personne de la communauté, une personne du chat qui m'a envoyé un DM pour me dire « Dis donc, je serais intéressé par ton arbre à chat. Est-ce qu'il y a moyen de venir le chercher ?» J'ai fait « Mais bien sûr, avec plaisir, n'hésite pas. » Et donc, voilà. Merci. Voilà, on va mettre le petit avion en évidence. C'est vrai que ça fait vide. Hein. On voit mon climatiseur, c'est tout ce qu'on voit maintenant. Ça fait vide, ouais, ça fait vide. Hein. Et du coup, on voit ma bibliothèque. Voilà, c'est tout ce que ça change. Est-ce qu'on peut venir chercher d'autres choses comme ça? Alors, j'ai un livre d'Éric Ciotti. Mais celui-là, vous ne viendrez pas le chercher, je vous le dis tout de suite. Celui-là, je le garde. Il appartient à Ali Badou. Et je le rendrai à Ali Badou le jour où Ali Badou me le réclamera. Mais d'ici là, non. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le chat. Hop là. Hop, voilà. Maintenant, on voit le chat. Autorité pour vos soirées BDSM. C'est pas un vide-grenier. Non, c'est pas un vide-grenier. Il n'y a pas grand-chose à looter. Chez moi, je suis désolé. Je peux venir prendre un café en apportant une tasse et mon café? Non. Non, mais venez à Backseat, on se voit à Backseat, on boit des bières et tout, c'est très bien Backseat, ça sert à ça. Formidable. Profitons-en, profitons-en collectivement. Je suis vachement intéressé par ton climatiseur, s'il y a moyen de venir le chercher, c'est mort. C'est mort. Petite question, si un député devient maire, il y a des nouvelles élections ou c'est son suppléant qui prend sa place? Il y a de nouvelles élections. Les suppléants, ça ne peut servir. Ah oui, non, en cas de cumul des mandats, non, pas en cas de cumul des mandats. C'est le suppléant, t'as raison, c'est le suppléant. Oui, c'est le suppléant. Ça a changé en 2014. Les suppléants servent à suppléer leur titulaire si jamais celui-ci est nommé ministre. S'il est nommé à la tête d'une mission gouvernementale ou s'il meurt ou s'il devient député ou s'il devient maire et qu'il choisit de garder son fauteuil de maire. Voilà, c'est les trois conditions dans lesquelles un suppléant sert à quelque chose. Dans le reste du temps, il sert à rien. C'est quoi cette casquette CGT incroyable? La casquette CGT, là? C'est la casquette qui m'a été offerte par Sophie Binet. Sophie Binet, qui était venue sur le plateau de Backseat, qui m'avait offert la casquette. C'était en plein pendant la hype de la CGT, pendant la réforme des retraites, je crois. Voilà. Sophie Binet qui reviendra bientôt sur Backseat, d'ailleurs. Stay tuned. Stay tuned, on vous prépare des émissions chouettes. On vous prépare des émissions très chouettes. J'ai déjeuné ce midi avec mon coproducteur, avec Léa, la directrice de la prod aussi. Et on vous prépare des trucs cool. Notamment ce jeudi. Ce jeudi, Backseat aura lieu en direct de Bordeaux. Nous serons à Bordeaux et nous serons accueillis par un festival qui s'appelle Imprimé. Le festival Imprimé est un festival de journaux indépendants, de médias indépendants, qui organise un festival chaque année. Et donc nous y ferons une émission Backseat. On va parler des médias indépendants, évidemment. Et puis on recevra un invité politique. Cette semaine, nous recevons le Bordelais Philippe Poutou, qui sera notre invité politique. Ce sera à 18h. Non, 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 l'émission est à 19h. Je vérifie. Ouais, 19h. Moi, j'ai noté 19h en tout cas. À chaque fois que tu dis Léa, je peux m'empêcher de penser à Léa Chamboncel. Hop. Alors attendez. Emmanuel Macron va faire un discours. C'est à quelle heure le discours de Macron sur la dissuasion nucléaire? Ah bah c'est en ce
des
moment.
militaires et des civils
Allez, on regarde le discours de Macron.
où qu'ils se trouvent, dans un atelier secret, au fond des mers ou dans le ciel, notre dissuasion nucléaire. J'en suis reconnaissant à chacun. Pour la dissuasion, notre nation a consenti un effort financier, scientifique et technologique constant, à tous égards exceptionnel et sans égal sur le continent. Déjà, trois générations de femmes et d'hommes se sont succédé pour œuvrer à l'édification, à la consolidation, à l'optimisation de
Il
ce
est
qui
sur l'île Longue à Brest,
constitue
il est sur l'île
la
Longue à Brest,
pierre
comme vous le savez, l'île
angulaire de
Longue,
notre
c'est la base des
stratégie de
sous-marins
défense.
nucléaires français.
À l'heure où vacillent les certitudes, où les adversaires s'enhardissent, où les alliances faseyent, la dissuasion est et doit demeurer un intangible français. En tant que président de la République, élu au suffrage universel direct, j'en suis le garant. Et je suis venu ici vous redire avec la plus grande force l'attachement de la nation, mon attachement, à la poursuite de cette mission fondamentale. Notre dissuasion est robuste et efficace. Tous ceux qui auraient l'audace de vouloir s'en prendre à la France savent le prix insoutenable qu'il y aurait pour eux à payer.
C'est le principe de la dissuasion nucléaire.
Mais intangible ne veut pas dire inerte. En février 2020, il y a 6 ans déjà, fidèle à la tradition républicaine, j'avais exposé les fondements de notre doctrine nucléaire et de sa place dans le monde. Depuis lors, les choses ont changé. Les 6 années écoulées, pour la France et pour l'Europe, pèsent comme des décennies et les derniers mois comme des années. Nos concurrents ont évolué, nos partenaires aussi.
Le On monde retrouve Jean-Noël Barrot assis à côté de Sébastien Lecornu au premier rang.
C'est donc avec beaucoup de gravité que je viens aujourd'hui annoncer à la nation une évolution à la hauteur de nos défis nationaux et européens. Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces. Et nous devons penser notre stratégie de dissuasion dans la profondeur du continent européen, dans le plein respect de notre souveraineté, avec la mise en place progressive de ce que j'appellerai une dissuasion avancée.
Alors ça veut dire quoi, dissuasion avancée ?
Oui,
c'est ça son annonce ?
Nous vivons actuellement, au plan géopolitique, une période de rupture, pleine de risques, et nos compatriotes en ont pleinement conscience. Cette période justifie un durcissement de notre modèle. La Russie mène à l'Ukraine voisine une guerre lente et cruelle qui constitue, comme l'a identifié notre revue nationale stratégique, un risque majeur pour notre Europe. Cette même Russie assume un révisionnisme, un impérialisme brutal et déjà forte d'un arsenal nucléaire pléthorique.
Est-ce que ça veut dire que la France va partager la bombe nucléaire avec ses voisins européens ?
Des missiles nucléaires hypersoniques, d'autres à propulsion nucléaire censés voler sans limite, des torpilles nucléaires et même un projet particulièrement dangereux pour l'humanité d'armes nucléaires envoyées dans l'espace. La Chine, de son côté, s'est engagée dans un rattrapage à marche forcée des États-Unis. Elle fabrique plus d'armes aujourd'hui que n'importe quel autre pays. Elle a exposé encore récemment les derniers perfectionnements de sa triade. Nul ne sait quelles seraient les ramifications, directes ou indirectes, nucléaires ou non, d'un conflit qui éclaterait en Extrême-Orient ou ailleurs. Elle ne saurait en tout état de cause être sans conséquences pour nous. La Chine, comme la Russie, développe des systèmes de plus en plus sophistiqués de protection de leur territoire. Une logique qui épouse d'ailleurs les Américains aussi, avec leur projet de Golden Dome. En Asie, les arsenaux ou les forces stratégiques d'autres États possesseurs, comme l'Inde, le Pakistan et la Corée du Nord, sont en pleine expansion. Par ailleurs, nous ne pouvons plus considérer les menaces de manière isolée, car de nouveaux liens sont apparus entre elles. Quel est le prix ? Du soutien massif de la Corée du Nord à la guerre d'agression que mène la Russie. Quelles sont les ramifications du traité d'alliance entre les deux pays ? Que dire de la dépendance extrême dans laquelle la Russie s'est placée vis-à-vis de la Chine ? De tout cela, nous devons tenir compte. À cela s'ajoute la guerre en cours au Proche et Moyen-Orient.
Ah, la guerre en Iran.
Qui portera son lot d'instabilité et d'embrasement possible à nos frontières, avec un Iran aux capacités nucléaires et balistiques non encore détruites. Sur cela, je reviendrai dans les prochains jours. Quant à nos alliés américains, qui eux-mêmes modernisent leur arsenal, ils jouent depuis 1945 et continueront de jouer un rôle clé dans la défense de l'Europe. Nous leur en savons gré. Et au plan de la dissuasion, ils participent directement à notre protection avec la mission nucléaire de l'OTAN. Mais leur récente stratégie nationale de sécurité et de défense manifeste un réagencement des priorités américaines et une incitation forte à ce que l'Europe s'occupe plus directement de sa propre sécurité. Il nous faut entendre cette invitation à prendre davantage en main notre destin. Et comme vous le savez, je ne dis pas autre chose depuis le premier jour de mon premier mandat. Il y a par ailleurs une autre caractéristique de la période que nous vivons. Dans l'atmosphère d'anomie actuelle, nous assistons à la fois à un renforcement du risque que les conflits franchissent le seuil nucléaire, mais aussi dans le même temps à une intensification de la conflictualité sous ce seuil. Et cela a des implications très directes pour nous. Le risque de franchissement est plus grand, d'abord parce que les conflits impliquant des puissances dotées, des États possesseurs ou proliférants s'accroissent. N'a-t-on pas vu tout récemment des explosions de violence impliquant l'Inde, le Pakistan, l'Iran, Israël ? N'a-t-on pas vu aussi des comportements irresponsables, de la Russie en particulier, avec une modification de sa doctrine coups humains pour menacer l'Ukraine, une banalisation du discours sur l'arme, des officiels qui agitent des menaces inconsidérées, des tirs de missiles du haut, comme l'Oreshnik, à proximité des frontières européennes. Tout cela est un changement majeur qui rend plus tangible le risque de franchissement. Dans le même temps, les puissances nucléaires, comme la France, doivent aussi s'accoutumer à la possibilité de conflits majeurs sous le seuil nucléaire dans leur environnement immédiat. N'a-t-on pas vu ces derniers mois des salves de missiles tomber sur des puissances dotées ou des États possesseurs ? L'Europe pourrait un jour se trouver dans une position similaire. Pour gérer ce genre de situation avant qu'elle ne franchisse le seuil nucléaire, il faut des capacités spécifiques. L'alerte avancée pour détecter les menaces, la défense aérienne élargie pour s'en prémunir, la frappe dans la profondeur pour contrer et agir au plan offensif. C'est tout cela qu'on appelle l'épaulement. Pour être forts dans notre dissuasion nucléaire, nous devons être forts dans nos capacités conventionnelles dans toutes leurs dimensions. C'est bien sur ces deux piliers que se fonde notre défense, et j'en ai souligné l'importance dès 2020. Mais les dernières années ont bien montré le manque criant de capacités d'épaulement en Europe. Et cette situation n'est pas tenable. Et vous verrez qu'elle occupe une place importante dans mon raisonnement. Tout cela montre en tout cas que les menaces nucléaires s'accroissent, se diversifient, qu'elles sont davantage connectées entre elles, qu'elles risquent d'être précédées d'épisodes de conflits intenses sous le seuil et que les défenses de nos adversaires potentiels se renforcent. Nous devons donc en tirer les leçons. Car en effet, dans ce monde dangereux et instable, comme vous m'avez déjà entendu le dire à plusieurs reprises, pour être libre, il faut être craint. J'en ai la conviction. Notre pays détient cette arme hors du commun, qu'est l'arme nucléaire, et il en fait le socle de sa sécurité. La chaîne de commandement est d'une clarté totale, et la décision ultime revient au seul président de la République. Et devant la nation, dans ces temps d'incertitude, je le redis aujourd'hui avec force. En ma qualité de président de la République, je n'hésiterai jamais à prendre les décisions qui seraient indispensables à la protection de nos intérêts vitaux.
Donc j'hésiterai pas à utiliser la bombe nucléaire.
Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Un seul de nos sous-marins, tel que celui derrière moi, emporte avec lui une puissance de frappe qui équivaut à la somme de toutes les bombes tombées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est près de 1000 fois la puissance des premières bombes nucléaires. C'est donc un discours de puissance assumé au service de la paix que je viens vous tenir aujourd'hui. Et cette puissance, vous le savez mieux que quiconque, ne vient pas sans effort. Le maintien de la crédibilité de cet outil est le fruit de décisions importantes prises ces dernières décennies et accélérées ces dernières années. Les trois décennies d'après la guerre froide nous avaient offert cette parenthèse de l'histoire où nous bénéficions de l'affaiblissement de nos adversaires et de l'empathie assurée de nos alliés. En conséquence, nous avions progressivement renoncé à la composante terrestre de notre dissuasion et nos arsenaux avaient décru. Ces temps pourtant si proches semblent déjà lointains. Dès 2017, j'ai pris acte de la fin des dividendes de la paix. Je me suis employé à assurer le renouvellement de tous nos moyens pour les prochaines décennies. Nos futurs sous-marins stratégiques ont été mis en chantier. Ceux qui assurent, avec vaillance, une présence permanente à la mer depuis 1972, verront donc la troisième génération prendre la mer, ici même, à l'île Longue. Les premières découpes de l'acier qui façonnera les coques de ces nouveaux sous-marins ont commencé il y a plusieurs mois à Cherbourg. Je tiens ici à féliciter les acteurs militaires, industriels, scientifiques qui œuvrent à ce succès. Très peu de nations dans notre monde sont capables de construire de tels sous-marins nucléaires, prodiges inégalés de technologie. Aussi discret que performant, capable de frapper en tout point nos agresseurs potentiels. Dans la tradition qui préside au baptême de nos sous-marins, j'ai ainsi aujourd'hui l'insigne honneur de vous annoncer que le futur sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui battra pavillon français se nommera l'Invincible et naviguera en 2036. La même rigueur s'est appliquée au renouvellement intégral des autres domaines de la dissuasion. Nous disposons, depuis quelques mois, du nouveau missile M51.3 sur nos SNLE et d'une nouvelle tête nucléaire.
Un SNLE, c'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins.
Pour pénétrer toutes les défenses. Notre force aérienne stratégique et la force aéronavale nucléaire ont vu leurs missiles de croisière nucléaire rénovés. Et nous allons lancer cette année le très ambitieux programme de missiles stratégiques hypersoniques et manœuvrants qui équipera nos avions de combat et le futur porte-avions dans la prochaine décennie. Notre programme national Tritium a été consolidé, nous assurant de notre capacité à poursuivre la production d'armes nucléaires en totale indépendance et autosuffisance. Notre réarmement, vous le voyez, engagé depuis presque 10 ans, porte donc ses fruits. Vous en voyez certains effets ici même, et l'effort se poursuivra bien sûr symétriquement sur le volet conventionnel. Et pourtant,
conventionnel, ça veut dire non nucléaire.
Ce que j'ai évoqué au début de mon propos m'amène à une conclusion claire. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la trajectoire actuelle. Et je dois à la nation, pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir, l'assurance absolue que notre dissuasion demeurera crédible et qu'au moment des circonstances extrêmes, elle nous soustraira à tout chantage et toute capitulation. L'évolution des défenses de nos compétiteurs, l'émergence de puissances régionales, la possibilité de coordination entre adversaires et les risques liés à la prolifération, tout cela après un examen minutieux, m'a conduit à cette conclusion. Un rehaussement de notre arsenal est indispensable.
Donc on va avoir plus de bombes.
Il ne s'agit pas ici d'entrer dans une quelconque course aux armements. Cela n'a jamais été notre doctrine. Il serait inutile de prétendre entrer dans une coûteuse surenchère. L'essentiel, comme je le disais, est que tout adversaire ou toute combinaison d'adversaires ne puisse entrevoir la possibilité d'une quelconque frappe à l'encontre de la France sans la certitude de se voir infliger des dommages dont il ne se relèverait pas. Il n'est point besoin de symétrie des arsenaux pour cela. Notre doctrine refuse donc l'idée de riposte nucléaire graduée. L'armement nucléaire français est stratégique et exclusivement stratégique, car il s'agit bien d'armes d'une toute autre nature que celles dont on pourrait user sur un champ de bataille. La France, depuis le président François Mitterrand, a ainsi abandonné tout concept d'emploi tactique des armes nucléaires, et nous n'y reviendrons pas. Dans cette optique d'asymétrie assumée, la France a toujours envisagé pour son arsenal les seuils strictement cohérents avec l'efficacité opérationnelle de notre dissuasion. Ma responsabilité est d'assurer que notre dissuasion conserve, et qu'elle conservera à l'avenir, son pouvoir de destruction assuré dans l'environnement dangereux, mouvant et proliférant que je viens de rappeler. C'est pourquoi j'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal. Pour couper court à toute spéculation, nous ne communiquerons plus sur les chiffres de notre arsenal nucléaire, contrairement à ce qui avait pu être le cas par le passé. Pour être libre, donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Cette augmentation de notre arsenal en témoigne. Mais pour être puissant, et c'est le deuxième temps de mon propos aujourd'hui, il faut être plus uni. Et c'est d'Europe que je vais vous parler à présent.
Alors, dissuasion européenne ?
Notre sécurité ne s'est jamais conçue dans les seules limites de notre territoire, au plan conventionnel comme au plan nucléaire. C'est un fait évident de la géographie qui est là et qu'on ne peut négocier. J'ajouterai d'ailleurs, aujourd'hui plus que jamais, l'indépendance ne peut être la solitude. Dans le domaine nucléaire, cela a été reconnu par tous mes prédécesseurs sans distinction. Mais aujourd'hui, les conditions sont désormais véritablement réunies pour en tirer les conséquences concrètes. Pour expliquer ce point, permettez-moi de m'attarder un instant sur un élément central de notre doctrine nucléaire, les intérêts vitaux de la nation. La dissuasion nucléaire française a vocation à dissuader tout État de s'en prendre à nos intérêts vitaux. Quels sont-ils ? Nous ne les avons jamais énoncés précisément, à dessein.
C'est vrai, ça.
Nos lignes rouges ne sont pas lisibles. Elles ne sauraient l'être. À coup sûr, pourtant, nos intérêts, s'ils couvrent le territoire hexagonal et ultramarin, ne peuvent se confondre avec le seul tracé de nos frontières nationales. Peut-on envisager que la survie de nos partenaires les plus proches soit mise en jeu sans que cela affecte nos intérêts vitaux ? Ou à l'inverse, qu'une menace extrême en Europe ne concerne que nous-mêmes ? Pour ces raisons fondamentales, les présidents successifs ont évoqué la dimension européenne des intérêts vitaux de la France. En février 2020, j'avais réitéré l'offre de tous mes prédécesseurs, depuis le président François Mitterrand, d'un dialogue avec les pays européens qui seraient désireux d'approfondir avec nous cette dimension. J'avais même proposé d'associer ces pays à des exercices de notre dissuasion. 6 ans plus tard, nous sommes dans un autre univers stratégique. Nous devons passer à une toute autre étape et formuler pour notre époque ce dont le général de Gaulle avait déjà l'intuition, Je crois pouvoir affirmer que nos partenaires y sont prêts.
Ça veut dire quoi ?
Nous avons d'abord resserré, en juillet dernier, les liens avec le Royaume-Uni, partenaire majeur et puissance nucléaire indépendante avec laquelle nous reconnaissons, depuis 1995, qu'il n'y a pas de situation engageant les intérêts vitaux de l'une sans que ceux de l'autre ne soient affectés. Nous avons renforcé nos coopérations nucléaires bilatérales, affirmé notre solidarité commune avec les Européens et ouvert la possibilité d'une coordination de nos dissuasions respectives. Dès cet hiver, de hauts responsables britanniques ont assisté, pour la première fois depuis l'existence de notre dissuasion, à l'un des exercices de nos forces aériennes stratégiques. Mais notre ambition doit être plus grande, car c'est la sécurité du continent, la nôtre, qui est en jeu pour l'avenir. Des contacts ont été pris avec un premier groupe d'alliés, à commencer, bien entendu, par notre partenaire essentiel, l'Allemagne. Ils ont répondu favorablement à l'offre de la France. Aujourd'hui, une nouvelle étape de la dissuasion française peut donc se concrétiser.
Alors, ça veut dire quoi ?
Nous entrons sur le chemin de ce que j'appellerais la dissuasion avancée. Je préfère le dire tout de suite, il n'y aura aucun partage de la décision ultime, ni de sa planification, ni de sa mise en œuvre. En vertu de notre Constitution, elle appartient au seul président de la République, comptable devant le peuple français. En conséquence, il n'y aura pas non plus de partage de la définition des intérêts vitaux qui restera d'appréciation souveraine pour notre pays. Et pour cette raison, comme dans les autres alliances nucléaires, y compris lorsqu'elles ont des plans et des procédures, il n'y aura pas de garantie au sens strict du terme. Une garantie rigide, d'ailleurs, serait imprudente. Elle abaisserait le seuil nucléaire et réduirait d'autant l'incertitude de nos adversaires. Avec la dissuasion avancée, notre doctrine conservera ses fondations originelles. Son caractère strictement défensif, le refus de la bataille nucléaire, la rupture totale et assumée entre le conventionnel et le nucléaire. Il en va de même pour l'opportunité d'un avertissement nucléaire unique et non renouvelable. Il sera toujours décidé à la seule discrétion de la France pour signifier très concrètement que le conflit vient de changer de nature et que la France entend par ce moyen préserver une ultime chance de rétablir la dissuasion.
L'avertissement nucléaire, c'est le fait de larguer une petite bombe nucléaire dans une zone non habitée pour bien montrer qu'on est déterminé.
En intégrant à sa réflexion les intérêts de nos alliés, le franchissement délibéré du seuil nucléaire. La dissuasion avancée est une démarche progressive. Elle offre la possibilité pour les partenaires de participer aux exercices de la dissuasion, tout d'abord. Cela pourra impliquer également du signalement, y compris au-delà de nos frontières strictes, ou la participation conventionnelle de forces alliées à nos activités nucléaires. Elle pourra enfin prévoir le déploiement de circonstances, d'éléments de forces stratégiques chez nos alliés. Et de la même façon que nos sous-marins stratégiques se diluent naturellement dans les océans, garantissant une capacité permanente de frappe, nos forces aériennes stratégiques pourront ainsi se disséminer dans la profondeur du continent européen. Cette dispersion sur le territoire européen, à la manière d'un archipel de forces, compliquera le calcul de nos adversaires et donnera à cette dissuasion avancée beaucoup de valeur pour nous. Elle renforcera notre défense en lui accordant du champ. Elle lui offrira une profondeur stratégique nouvelle, cohérente des enjeux de sécurité en Europe. Sa valeur sera, je le crois, très forte aussi pour les partenaires qui entreront dans cette logique avec nous et dont le territoire gagnera un lien affirmé avec notre dissuasion. Il a été clair, dès le début, pour nous et pour nos partenaires, que cet effort viendrait en plus de la mission nucléaire de l'OTAN, à laquelle, je le rappelle, nous ne prenons pas part. La dissuasion avancée que nous proposons est un effort distinct qui a sa valeur propre et qui est parfaitement complémentaire de celui de l'OTAN au plan stratégique comme au plan technique. Le travail que nous avons entamé sur ce projet avec les Européens s'est fait en pleine transparence avec les États-Unis d'Amérique et en coordination étroite avec le Royaume-Uni. Que les alliés qui nous ont témoigné leur confiance en travaillant intensément à ces futurs partenariats, dans le respect de nos obligations internationales et tout particulièrement du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, en soient ici aujourd'hui remerciés. L'Allemagne sera un partenaire clé de cet effort, naturellement, le plus ambitieux dans l'esprit du traité d'Aix-la-Chapelle. Les premières étapes de la coopération commenceront dès cette année et pourront inclure des visites de sites stratégiques et des exercices conjoints. Dès à présent, d'autres pays ont accepté ce dialogue et au-delà de nos partenaires et amis britanniques et allemands déjà évoqués, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède et le Danemark s'y joindront. C'est une véritable convergence stratégique entre nos pays, de nature à donner une réelle profondeur à la défense de notre continent. Les discussions sont aussi ouvertes avec plusieurs autres pays, se poursuivront dans les semaines et les mois à venir. À l'image de ce que nous avons mis en place avec le Royaume-Uni, des organes d'échange au niveau politique vont être créés avec chacun de ces pays dès les prochains jours. Cela suppose un travail commun sur la menace et le renseignement, des moyens de communication spécifiques, une organisation, mais aussi une compréhension commune des ressorts de l'escalade et de comment y faire face, en particulier dans sa phase conventionnelle. C'est pourquoi aussi la démarche de la dissuasion avancée, de par sa nature, accroît notre protection et celle de nos partenaires. De la même manière que la France crée pour les adversaires de l'Europe de nouveaux dilemmes stratégiques à travers cette dissuasion avancée, nos partenaires contribuent en retour à la sécurité collective et donc à celle de la France. C'est la nature même de l'épaulement stratégique. L'expérience des dernières années montre bien qu'il y a au moins trois domaines où notre Europe, si elle devait faire face à une escalade et la gérer sous le seuil nucléaire, bénéficierait de nouveaux moyens collectifs. L'alerte avancée, donc la capacité par une combinaison de satellites et de radars de détecter et de suivre les missiles qui pourraient nous viser. La maîtrise de notre ciel avec la défense aérienne élargie et les protections antimissiles et antidrones, et enfin les capacités de frappe dans la grande profondeur. En entrant avec nous dans cet épaulement réciproque, les pays partenaires peuvent aider à renforcer les capacités de l'Europe dans ces trois domaines. Ce serait une juste répartition des efforts, et la France y sera donc clairement gagnante. D'ores et déjà, les projets avancent. Et nous continuerons de forcer le pas. Pour ce qui est de l'alerte avancée d'abord, le programme JEWEL donnera des capacités souveraines aux Européens pour détecter depuis l'espace les missiles qui les viseraient.
Le programme JEWEL, c'est un programme de satellites militaires, je crois.
Aérienne, le système SAMT/NG offrira des performances de premier rang mondial. Déjà, le Danemark et l'Ukraine en ont annoncé l'acquisition.
Pour ce qui est de la frappe dans la profondeur, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, dans le cadre de notre initiative dite ELSA, vont travailler ensemble à des projets de missiles de très longue portée. Cela nous donnera de nouvelles options pour gérer conventionnellement l'escalade, à l'heure où les adversaires déploient technologies et armements nouveaux. À mesure que s'intensifiera le partenariat, d'autres projets, d'autres contributions verront le jour, dans un esprit de complémentarité et de souveraineté européenne. Voilà donc la nouvelle épaisseur que je souhaite donner à la défense de la France.
Et donc c'est pas une révolution, hein.
Cohésion qui en résulterait pour notre continent. Vous le mesurez, c'est une évolution majeure que j'ai souhaité donner à notre dissuasion. Le contexte permettant enfin de mettre sur ces mots de dimension européenne prononcés par presque tous mes prédécesseurs, une réalité qui bénéficie à la fois à notre pays et à nos alliés. Mais dans la période troublée que nous vivons, il sera nécessaire aussi de repenser les règles qui régissent la sécurité de notre continent et du monde. C'est tout un cadre qu'il faut recréer. Et les Européens devront pouvoir y prendre pleinement leur place et y défendre leurs intérêts. Ils le pourront d'autant plus qu'ils auront su prendre leur part du fardeau, renforcer leur autonomie stratégique et prendre les décisions majeures que je viens d'évoquer. Aujourd'hui, en effet, les accords internationaux de maîtrise des armements sont à la peine. Regardons la situation avec lucidité. Chacun a pris ses libertés. Les États-Unis ont mis fin au traité sur les missiles antibalistiques. Les États-Unis et la Russie ont mis fin au traité sur les forces nucléaires intermédiaires, dont la Russie violait depuis longtemps les dispositions. Le traité New Start, qui encadrait les arsenaux nucléaires américains et russes, a cessé d'exister il y a quelques semaines. La Russie a dératifié le traité d'interdiction sur les essais nucléaires que les États-Unis n'avaient, eux, jamais ratifié. Une reprise des essais romprait un moratoire de près de 30 ans. La Chine, quant à elle, en plein rattrapage, ne s'associe à rien. Alors, disons-le franchement, le champ des règles est un champ de ruines.
Ouais, c'est une phrase forte, ça.
L'animosité ambiante se prête assez peu à la confiance qu'il faut pour rebâtir les normes de sécurité collective. C'est pourquoi nous avons raison de durcir notre position et de prendre les décisions que je viens d'annoncer. Et cette anomie, malheureusement, ne vaut pas que pour ceux qui ont déjà l'arme, mais aussi pour ceux qui cherchent à l'acquérir. La conférence d'examen du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires se tiendra en mai, dans un paysage lourd de menaces, avec les progrès inquiétants du programme nord-coréen, la crise iranienne, mais aussi les tentations croissantes de tous ceux qui, en Asie, en Europe ou ailleurs, cherchent des alternatives aux garanties de sécurité sur lesquelles ils croyaient pouvoir compter. Tel est l'esprit des temps. Mais la France ne compte pas s'y résoudre. Dans le domaine de la maîtrise des armements, notre propre bilan est en effet exemplaire. Et je veux aujourd'hui ici le rappeler. Nous avons démantelé la composante terrestre de notre dissuasion et nos installations d'enrichissement à des fins militaires. Nous avons cessé nos essais nucléaires, développé un système performant de simulation et toujours refusé toute course aux armements. La démarche de dissuasion avancée que nous proposons n'est pas escalatoire. Et en ce qu'elle accroîtra le sentiment de sécurité en Europe, elle est résolument bénéfique pour ne pas encourager un jour les risques de prolifération sur notre continent. Mais c'est surtout de logique que nous devons changer. Oui, les Européens ont pris l'habitude que leur sécurité dépende de règles faites par des tiers, en d'autres temps, défaites aussi, parfois à leur insu, souvent à leur dépens. Soyons clairs, l'architecture de sécurité européenne, c'était cela. Des accords datant de la période de guerre froide négociés par d'autres que nous, y compris quand ils nous concernaient, et qui ont été dénoncés par ceux-là même qui les avaient signés sans aucune concertation, quand bien même ces derniers étaient nos alliés. Notre époque appelle une autre méthode. Nous devons reconstruire un corpus de règles, mais pour ce qui nous concerne, à partir de nos intérêts de sécurité et ceux de notre continent. Cela passera tout d'abord par un travail que les Européens doivent conduire sur la manière dont doit être organisée la stabilité de notre Europe. J'invite donc les partenaires à se joindre aux premiers travaux que nous avons entamés avec les Allemands et les Britanniques sur ce sujet. Les convergences organisées dans le cadre de la dissuasion avancée y aideront. Lorsque nos intérêts européens seront établis, il sera possible d'aller plus loin et d'ouvrir un cadre de négociation afin de contrôler certaines capacités conventionnelles et leur positionnement. Cette démarche est à préparer dès à présent par l'accroissement de notre indépendance européenne. Et elle doit viser demain à un nouveau cadre de sécurité sur tous ces sujets, en particulier entre Européens et Russes, à tout le moins, et au niveau international, en cherchant à impliquer les États-Unis d'Amérique et la Chine, y compris concernant les capacités nucléaires sur une base équitable. Mais ce que je souhaite plus que tout, vous l'aurez compris, c'est que les Européens reprennent le contrôle de leur propre destin. N'oublions pas, tout ceci étant dit, qu'au-delà de la comptabilité des arsenaux et des architectures de sécurité, il y a une dimension éthique à ce dont nous parlons. L'arme nucléaire a sa charge d'épouvante. Ces questions morales ne se résument pas aux lois d'airain de la stratégie, avec ses logiques désincarnées. Il n'est que juste qu'une telle arme continue de susciter une discussion de raison pour en limiter l'usage, l'encadrer et préserver l'objectif à terme d'un monde sans armes nucléaires. Cela doit rester notre horizon. Il n'est que juste aussi de militer avec persistance en faveur des usages pacifiques de l'énergie atomique. C'est tout l'esprit du TNP. Et la France est en bonne position.
Le TNP, c'est le traité de non-prolifération
nucléaire civile. Après tout, quel autre pays repose sur cette énergie comme nous, l'énergie nucléaire qui permet de produire 70% de notre électricité. Une énergie décarbonée à bas coût qui rend notre pays attractif. C'est ce qui fait que la France sera pleinement légitime organisé à Paris, le 10 mars prochain, un sommet pour encourager le développement de cette énergie, ses usages et son financement. Je crois aux vertus d'un nucléaire de confiance, aux vertus aussi des innovations dans la matière. Je crois à sa valeur pour faire face aux besoins voraces de nouvelles technologies. Et je suis déterminé à aider l'Agence internationale de l'énergie atomique à favoriser avec un encadrement approprié, les nouvelles technologies sensibles. Mesdames et messieurs, le temps est venu pour moi de conclure. Et j'aimerais vous inviter un moment à prendre la mesure de cet endroit à nul autre pareil. La base opérationnelle de l'île Longue, à l'extrémité du Finistère. L'île Longue, qui est tout à la fois la pointe avancée de l'Europe, son cap occidental et sa forteresse. Et je vous invite à prendre conscience de tout ce qu'il signifie dans toutes ses dimensions. Masse, puissance, indépendance donc, et j'ajouterai solidarité stratégique. Ce que vous avez sous les yeux est un héritage précieux dont nous sommes les dépositaires, et que nous continuerons à faire vivre avec ténacité. Nous continuerons donc de développer le formidable outil de puissance, expression du génie français, patiemment érigé depuis le début de la Ve République. Je me suis fermement engagé depuis 2017 dans le renouvellement de nos forces stratégiques, et je m'y emploierai jusqu'au terme de ce mandat. La France sera forte d'un feu nucléaire modernisé, puissant, souverain et adapté à nos menaces. Toujours souveraine, elle sera forte aussi de son enracinement dans l'espace européen, de la profondeur stratégique qu'il lui donne, du renforcement des liens entre alliés et des complémentarités nouvelles qu'ils permettent. Le demi-siècle qui vient sera un âge d'armes nucléaires. La France, déterminée, libre, confiante, y tiendra tout son rôle. Elle continuera de se fortifier et pour son propre bénéfice, elle arrimera ce cap sur l'Atlantique au socle européen. Tel est mon message aujourd'hui. Soyons puissants, soyons unis, soyons libres. Vive la République, vive la France.
Voilà, c'est la fin de ce discours d'Emmanuel Macron ici à l'île Longue, à Brest, devant ce qui semble être un sous-marin nucléaire d'attaque. Le président de la République qui a voulu faire marquer un moment fort, celui de la création d'une dissuasion avancée, nouveau terme inventé par Emmanuel Macron qui désigne une évolution de la dissuasion nucléaire française élargie à certains de nos alliés avec lesquels des exercices vont bientôt commencer. Le président de la République qui a voulu marquer le coup en signant la fin de la naïveté en matière internationale, en matière nucléaire en particulier. Il a conclu avec cette phrase très importante. C'était quoi la phrase exacte qu'il a dite ? Le nouveau siècle sera nucléaire ? Ce sera un siècle d'armes nucléaires ? Je ne sais plus comment il l'a dit. Alors que tout le monde entonne la Marseillaise, il est avec des militaires, évidemment, à l'île Longue. Il est avec des militaires, on a vu le chef d'état-major des armées, on a vu Catherine Vautrin, on a vu Jean-Noël Barrot, on a vu évidemment Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Ça manque d'une fanfare. Hein. Après, la sonorité du lieu est pas mal. Enfin, ça fait un peu cathédrale. C'est fini ? Ça coupe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais où ? Je vais où ? Je dois rester là ? Ah bah non, je me casse. Bien, bien, bien. Alors, le sous-marin s'appelle le Téméraire. Le sous-marin qui est devant, là, à l'île Longue, s'appelle le Téméraire. Et visiblement, quelqu'un l'a dit dans le chat, c'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Je vous rappelle qu'il existe deux types de sous-marins nucléaires. Quand on dit sous-marin nucléaire, on parle de la propulsion du sous-marin qui est nucléaire. Le moteur du sous-marin est nucléaire. Il y a les sous-marins nucléaires d'attaque et les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et seuls les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins peuvent tirer des armes nucléaires. Donc, eux, non seulement ils sont à propulsion nucléaire, mais en plus, ils ont des armes nucléaires. Voilà. Et nous avons 4 SNLE et 6 SNA. Voilà pour l'arsenal français. Emmanuel Macron, en tout cas, qui a annoncé un futur sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui s'appellera l'Invincible et qui naviguera en 2036, donc dans 10 ans. Apparemment, la fabrication a déjà commencé. Nouveau programme de missiles hypersoniques aussi, j'ai noté. Et voilà. Et donc Emmanuel Macron a été un petit peu plus précis donc sur sa fameuse dissuasion avancée. Moi, je posais la question de savoir si on se dirigeait vers une arme nucléaire européenne. Évidemment, c'est un mot un peu fort, sachant qu'on ne sait même pas très bien ce que ça recouvre. Et là, ce qu'a précisé Emmanuel Macron, semble-t-il, c'est que la France n'entend pas partager avec ses alliés européens la possibilité d'utiliser une arme nucléaire. Ça reste une décision française. Seuls les Français pourront appuyer sur la gâchette à la fin. Pareil pour les intérêts vitaux qui sont à défendre. Les Français continueront à défendre les leurs et il ne s'agit pas de les négocier et de les partager. Par contre, je sais pas ce que c'était ce bruit. Par contre, on va travailler avec des alliés, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni. De ce que j'ai compris, c'est les deux pays qu'il a cités le plus, Allemagne et Royaume-Uni, avec lesquels les Français vont partager des exercices communs et surtout on va protéger leurs intérêts à eux aussi. Merci Ecos pour ton resub. C'est ce que j'ai compris. Emmanuel Macron qui a passé un paquet de temps dans son discours à mettre en garde contre la naïveté international, c'est bien mignon le monde d'avant, c'est bien mignon les dividendes de la paix issus de l'après-guerre froide, mais ça n'existe plus. Ça n'existe plus, personne ne respecte les règles internationales et il serait débile pour l'Europe d'être les derniers à respecter les règles, en gros. Merci Masso. En gros, j'ai cru comprendre que c'était ça le message. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre qui vous a marqué ? Ah oui, si, il a aussi dit quand même, non, parce que quand même, c'est pas rien, il a dit que la France allait augmenter son nombre d'ogives nucléaires. La France va augmenter son nombre d'ogives nucléaires. Une ogive, c'est une bombe. Hein. C'est ce qui pète à la fin. Merci Edwin. La France va augmenter son nombre d'ogives nucléaires. Et, deuxième annonce, il a annoncé que la France allait arrêter de donner un nombre exact. Apparemment, ça je ne le savais pas, mais apparemment la France faisait partie des bons élèves qui communiquaient sur des chiffres précis de nombre d'armes nucléaires. Et à partir de désormais et jusqu'à dorénavant, la France restera silencieuse sur le nombre exact de bombes nucléaires. Quand on demandera à la France combien vous avez de bombes nucléaires, la France répondra « on en a suffisamment ». Oui, c'est ça, la réponse sera oui. Oui, oui. Vous en avez combien ? Oui. Un certain nombre et un nombre certain. Pourquoi est-ce que c'est important de ne pas dire ? Bah, de ce que je comprends, mais peut-être que je me trompe, mais de ce que je comprends, il y a plein de pays qui mentent. Donc je vois pas l'intérêt d'être les seuls à dire la vérité. C'est vraiment être le seul couillon de la cour de récré qui dit combien il en a, alors qu'en fait les autres racontent n'importe quoi. Et ensuite, ça sert à rester mystérieux sur sa capacité de dissuasion. Si les services de renseignement militaire des autres pays, notamment des pays ennemis, savent pas exactement combien t'as d'armes nucléaires, bah c'est plutôt à ton avantage. Ils doivent faire des hypothèses, c'est leur problème. Toi, tu gardes tes cartes, tu ne joues pas au poker avec les cartes ouvertes. Tu gardes tes cartes pour toi. Voilà, principe du bluff. J'ai cru comprendre que c'était ça le truc, quoi. On peut aussi fournir les coordonnées GPS des sous-marins tant qu'on y est. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais tant qu'à faire. C'est ce qu'on appelle le flou stratégique. Ce que dans le jeu vidéo, on appelle le brouillard de guerre. Ça sert à ça. Tant qu'on n'a pas scouté, on ne sait pas ce que t'as. Ben voilà. Est-ce que ce n'est pas une contradiction d'augmenter son nombre de têtes nucléaires et de suivre le TNP en même temps ? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que prévoit le traité de non-prolifération, le TNP, le traité de non-prolifération nucléaire, qui a été signé par un certain nombre de pays, dont la France, et qui visait à contenir le nombre de bombes nucléaires sans empêcher les États d'en avoir une, parce que s'ils en veulent une, c'est qu'ils, voilà. Ça, on n'y arrivera pas. Mais en tout cas, limiter le nombre, lutter contre ce qu'on appelle la prolifération nucléaire, lutter aussi contre la volonté de certains pays d'acquérir l'arme nucléaire, notamment la Corée du Nord, l'Iran, l'Inde et le Pakistan, c'est déjà fait. Bref. Le droit international, tout le monde le piétine. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron aussi en disant le champ des règles est un champ de ruines. Ça veut dire qu'en fait, mais le droit international, il est piétiné par tout le monde à travers la planète. Et c'est pas. Et la volonté d'Emmanuel Macron, c'est que ce ne soient pas les Européens qui soient les derniers à respecter les règles. Donc on va redéfinir nos propres règles. C'est un peu ce qu'il a annoncé. On va redéfinir nos propres règles à nous qui défendent nos intérêts à nous, Européens. Mais comme le mandat de Macron s'arrête en 2027, est-ce que la construction continuera toujours ? L'invincible. Ah, le sous-marin ? Ah oui, le sous-marin, oui. Enfin, sauf à ce qu'un nouveau président de la République vienne nous annoncer qu'on arrête de construire un nouveau sous-marin nucléaire lanceur d'engins, dont la construction a déjà démarré. a quand même très peu de chance. Oui, bien sûr, à partir du moment où le chantier est lancé, on va jusqu'au bout. Hein. Puis de toute façon, 2036, le président de la République qui inaugurera le sous-marin, on ne sait même pas comment il s'appelle aujourd'hui. Hein. On dit, non, on ne sait pas. Le président n'a pas décidé ça comme ça, de toute façon. Oui, et puis par ailleurs, non, mais par ailleurs, t'as raison. C'est-à-dire que un sous-marin nucléaire, ça coûte un fric démesuré. C'est ultra compliqué à construire, surtout quand on le fait de manière souveraine en France, c'est le cas. Donc, c'est pas le genre de truc qui est décidé en un claquement de doigts. C'est plutôt sur des projets pluriannuels d'investissement où on anticipe la construction d'une nouvelle génération qui éventuellement voit le jour après que les bureaux d'études... Enfin, tout ça prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'étapes de validation, y compris politique. Et quand le chantier a démarré, le programme, il est déjà bien avancé. Hein. Il a aussi parlé du prochain demi-siècle et il a qualifié d'âge d'armes nucléaires. Oui, c'est la fameuse phrase choc qu'il a dite à la fin de son discours. Pour moi, ce que ça voulait dire, enfin pour moi, le sous-entendu de cette phrase d'Emmanuel Macron, c'était justement ce que je disais, c'est-à-dire le demi-siècle va être un âge d'armes nucléaires, que ça te plaise ou non. C'est pas la France, hein, c'est ni l'Europe. Ça va être un âge d'armes nucléaires. Il y a de plus en plus de pays qui vont essayer de l'obtenir. Il y a probablement de plus en plus de pays qui vont l'obtenir. Et donc, ça sous-tend, c'est le sous-texte de sa décision de dire « Ne soyons pas les seuls naïfs. Prenons des décisions dès maintenant pour nous protéger, protéger nos intérêts vitaux et ceux de nos alliés. » Voilà, c'était à peu près ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron dans ce discours. De ce que j'en ai compris, en tout cas. Est-ce qu'on avait vraiment le choix ? Développer notre puissance conventionnelle, ça prend bien plus de temps. Non, ça prend pas plus de temps, la puissance conventionnelle. Mais la puissance conventionnelle sans nucléaire, est-ce qu'elle sert à grand-chose ? C'est très différent, la dissuasion nucléaire et les armes conventionnelles, c'est deux choses assez différentes. Leur emploi n'est pas le même. Bonjour, j'ai pas bien compris quand il parle du Royaume-Uni, est-ce que c'est Angleterre incluse ? Alors oui, le Royaume-Uni est une union de divers royaumes, dont l'Angleterre. Le Royaume d'Angleterre fait partie des Royaumes-Unis. Royaume-Uni, comme on dit. Avec l'Irlande du Nord, avec le Pays de Galles, avec l'Écosse. Qu'est-ce qui me manque ? Il m'en manque, c'est sûr. Qu'est-ce qui est secret dans la production d'armes nucléaires ? La technologie ? Le Pays de Galles, j'ai oublié le Pays de Galles. Qu'est-ce qui est secret dans la production d'armes nucléaires ? Beaucoup de choses. Alors du coup, on a appris aujourd'hui qu'à partir de maintenant, la France allait même garder secret le nombre de têtes nucléaires qu'on a, alors qu'avant c'était public. Dans le cadre des traités internationaux, la France rendait public son nombre d'armes nucléaires. À partir de maintenant, on va garder secret ce nombre, ou on va dire n'importe quoi, on va mentir. Et ensuite, disons que la techno qui permet de faire une bombe nucléaire, elle est connue. La technologie, regarde le film sur Oppenheimer, depuis la Seconde Guerre mondiale, on sait faire des bombes nucléaires. On sait comment ça marche techniquement, on sait comment ça fonctionne. Après, une fois que j'ai dit ça, il y a tout le reste. Il y a absolument tout le reste. Le processus industriel, le processus de test, de certification, les essais. Alors, on ne fait plus d'essais, maintenant, il n'y a plus besoin, puisqu'on a des ordinateurs qui font des simulations. Ça ne sert plus à rien de faire péter des bombes pour voir comment ça pète. Ça, maintenant, plus aucun pays ne fait ça. Je dis ça sauf la Corée du Nord qui fait des essais nucléaires. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le vecteur. Le vecteur, c'est le missile qui va apporter la bombe nucléaire jusqu'à son objectif. Et alors là, on a plusieurs vecteurs en France. On a On a un vecteur aéroporté, c'est un missile qui est tiré par des rafales. C'est un missile. Le pilote, il appuie sur la gâchette, t'as un missile qui part, sauf qu'au bout du missile, il y a une bombe nucléaire. Ça existe. Ensuite, on a des missiles, des ICBM ou des trucs comme ça, des missiles intercontinentaux qui sont tirés depuis le sol. Ça ressemble un peu à une fusée, une petite fusée qui part comme ça et qui se casse, qui va sur sa cible. Et enfin, on a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui savent tirer eux aussi des missiles, à peu près le même modèle, mais depuis la mer. On n'en a plus depuis le sol. Je me demandais si la France en avait des missiles sol-sol. Nucléaire, je crois pas, effectivement. Non, nous, on a des rafales et on a des sous-marins. Rafales et sous-marins, je crois que ce sont nos deux... des avions et des sous-marins. Ce sont nos deux vecteurs. On a arrêté les missiles Pluton. Ok, je savais même pas que ça s'appelait Pluton. Donc voilà. Emmanuel Macron a rappelé également le caractère strictement défensif des armes nucléaires françaises. On parle de doctrine d'emploi. La doctrine d'emploi, c'est la méthodologie que s'applique la France à elle-même en ce qui concerne l'usage des bombes nucléaires. Et en l'occurrence, la doctrine française fait qu'on n'utilise jamais une bombe nucléaire pour attaquer quelqu'un. En première intention, ou de manière offensive. On n'utilise que de manière défensive contre une menace nucléaire. On est la seule puissance au monde à n'avoir rien au sol, uniquement avions sous-marins. D'accord, je ne savais pas. Parce que je sais que les Américains, ils en ont encore. Ça fait très guerre froide, hein, mais oui. Et on a les tirs de sommation. Et on a effectivement les tirs de sommation. Emmanuel Macron a rappelé que la France conservait sa possibilité de faire usage de l'arme nucléaire de manière... alors préventive, c'est pas le bon mot. Mais en gros, c'est ce qu'on appelle un tir de sommation. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que tu tires une bombe nucléaire dans une zone inhabitée, au-dessus de l'océan par exemple, et tu la fais péter de manière à envoyer un message à ton ennemi en lui disant « dernière sommation ». T'as bien vu qu'on l'avait la bombe, t'as bien vu qu'on savait s'en servir, t'as bien vu qu'on n'hésitait pas. Donc je te le dis, à partir de maintenant, ça s'arrête tout de suite. Voilà. Démonstrative, oui c'est ça, démonstrative. Tu la tires chez l'ennemi, tu la tires où tu veux. Tu la tires où tu veux pour que le message passe. Mais a priori, alors je ne suis pas militaire, hein, j'en sais rien. Je ne travaille pas dans la dissuasion nucléaire française. Je suppose qu'effectivement, on essaye de l'envoyer plutôt en direction de l'ennemi. C'est une aberration écologique de faire ça. Alors, oui. Mais quand tu en es au point de faire ça, c'est que l'écologie n'est plus du tout ta priorité. On est dans ce qu'on s'appelle une guerre nucléaire, en fait. C'est-à-dire que là, vraiment, l'écologie, c'est plus le sujet. Hein. Vraiment, c'est plus du tout le sujet. Ça le redeviendra après, quand on aura fait la paix, quand on aura réinstauré des institutions démocratiques et qu'on s'engueulera sur les pistes cyclables. Est-ce qu'elle a un Nutri-Score, la bombe ? À quel point est-ce qu'il y a un risque en vrai, genre que ça pète dans un avenir proche ? Le Pakistan vient d'entrer en guerre avec l'Afghanistan. L'Iran est sous les bombes américaines. le Liban est sous les bombes israéliennes. La Corée du Nord menace de manière vénère en permanence tous ses voisins, notamment la Corée du Sud et le Japon. La Russie, accessoirement, a envahi son voisin. Voilà. Moi, je trouve ça déjà pas mal. Et puis, accessoirement, le mec qui dirige la première puissance nucléaire du monde est un espèce de dégénéré qui déclenche des guerres sur un coup de tête. Et il y a la Chine et Taïwan, vous avez raison. Ouais, je trouve ça pas mal comme petite liste pour le monde dans lequel on vit. Je suis à deux doigts d'être d'accord avec Emmanuel Macron hein, sur le côté la naïveté, ça va 5 minutes. Le monde dans lequel on vit, il n'est pas serein, il n'est pas simple, il n'est pas prévisible. Bon, après, est-ce que je suis favorable au fait d'augmenter le nombre de têtes nucléaires françaises ? J'en sais rien. Je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. Le mot-clé, c'est dissuasion. Oui, c'est ça. Et donc, le principe, vous avez compris que le principe de la dissuasion nucléaire, en tout cas, c'est la doctrine française depuis le général de Gaulle, hein, c'est de doter la France de l'arme nucléaire de manière à envoyer un message à tous les pays qui seraient tentés d'en vouloir à la France, de leur dire, attention, on a la bombe. On n'a pas que ça. On a aussi des armes conventionnelles, des bombes, des missiles, des trucs comme ça. On a des armes à feu et tout, on a ce qu'il faut. Mais au bout du bout du bout, si vous attaquez la France, son territoire, ses intérêts vitaux, on a une bombe. Et on n'hésitera pas à l'utiliser contre vous. C'est ça la base de la dissuasion nucléaire. Ce qui est censé, j'ai bien dit censé, décourager quiconque de s'attaquer à la France ou à ses intérêts vitaux. C'est ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Pendant la guerre froide, vous vous souvenez peut-être de vos cours au lycée, pendant la guerre froide, où l'Union soviétique et les États-Unis ne sont jamais entrés en guerre directement, précisément parce qu'ils avaient chacun la bombe. Et que ça les dissuadait de le faire. Bon, ils sont quand même fait la guerre par proxy interposé. Hein. Ils se sont mis sur la tronche. C'était pas des Russes, c'était des Vietnamiens. C'était des Nord-Coréens. Ouais. Quel intérêt de dissuader si tu dis que tu n'en feras pas usage de toute façon ? Mais tu en feras usage. La dissuasion, ça ne veut pas dire on s'en servira jamais. Ça veut dire on ne veut pas s'en servir, mais si vous nous forcez à le faire, on le fera. C'est ça que ça veut dire. Non, non, au contraire. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de secret. Tout à l'heure, on parlait de secret militaire, etc. Évidemment que le secret fait partie du bluff permanent de cet équilibre des puissances, notamment nucléaires et des puissances militaires. Mais quand la France teste un missile à très longue portée, elle fait en sorte que ça se sache. C'est ça aussi la guerre. Enfin, c'est ça aussi le rapport de force avec les autres puissances. C'est de dire à tout le monde, vous avez vu, on vient de tester une nouvelle génération de missiles et on a cette capacité-là qui maintenant fait partie de notre arsenal. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Merci Hugo pour ton raid. Merci Hugo. On fait un régiment de streamers pour la guerre, putain. On va avoir l'air fin. On va avoir l'air fin tous les deux dans une tranchée. Mais d'ailleurs, je continue la réflexion sur ce que je viens de dire, parce que ça fait évidemment partie du jeu. Le fait que la France fasse défiler son armée chaque 14 juillet sur les Champs-Élysées, c'est pas juste pour le plaisir des images sur TF1 et France 2. C'est aussi un message envoyer au monde entier en disant « Coucou, nous, c'est la France, voilà ce qu'on a. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. » De la même manière que Vladimir Poutine, sur la place Rouge, il fait pareil. Xi Jinping, à Pékin, il fait exactement pareil. Vous avez vu les gros camions, là, avec les missiles intercontinentaux dessus ? Pourquoi vous croyez qu'il se fait chier à les faire rouler, là ? C'est pas pour lui, hein ? Ah non, pour toi. Voilà. Coucou. Coucou, nous, c'est la Chine, et voilà ce qu'on a. On a des gros missiles qui vont très très loin et qui font très très mal. Merci WP Corp. Merci, merci. Trump, il essaye. Alors, je me souviens d'un journaliste américain qui avait ironisé là-dessus en disant « Effectivement, les Américains n'ont pas pour habitude de faire des défilés militaires. Et la raison est simple, c'est que les Américains, ils font usage de leurs armes. » Disons que c'est leur défilé à eux. Voilà. Bon, le message est le même. Le message est le même, le vecteur n'est pas tout à fait le même. Voilà. Ils les font défiler chez les autres. Voilà, c'est ça. Ils les font défiler, mais chez toi. Quand c'est ton tour, c'est chez toi. Pour les USA, c'est un défilé itinérant, c'est un peu comme Holiday on Ice. C'est con. Ils ont un arsenal médiatique et artistique de Barjot aussi, tout le monde est au courant. Oui, non, mais bien sûr, c'est vrai. Mais ce qui d'ailleurs est intéressant, enfin je veux dire, en ces temps de guerre, parce qu'il faut bien nommer les choses, non pas que la France soit en guerre directement ou que nous soyons, nous, en France hexagonale, menacés en quoi que ce soit, pour l'instant, en ces temps où le retour à la force armée s'impose un peu partout dans le monde, la question du pacifisme est une question qui se repose de manière intéressante. Comment être pacifiste dans un monde en guerre ? Peut-on être pacifiste sans être naïf ? Est-ce qu'il faut être cynique pour avoir compris les choses ? J'en sais rien. Faut-il arrêter le défilé militaire du 14 juillet ? Et ça, c'est un débat. Je me souviens qu'on avait ce débat en 2012. Ça remonte, hein. Ça remonte loin. Hein. Est-ce que le pacifisme n'est pas une position de faiblesse ? Eh bien, la question que tu poses, c'est une question qui s'est posée en 1914, en 1939, et ainsi de suite. Et c'est pas une petite question, c'est une question importante. Ou alors, est-ce qu'on peut faire les deux en même temps ? Est-ce qu'on peut faire à la fois du pacifisme, essayer d'éviter au maximum que les conflits naissent, tout en étant réaliste et en se préparant à l'éventualité du conflit ? Le pacifisme n'existe pas sans force armée compétente et puissante. Sans doute, c'est intéressant. Voilà. Disons que c'est facile d'être pacifiste dans un pays qui possède la bombe nucléaire, qui du coup n'a pas trop de problèmes militaires sur son sol, de fait. Voilà, ça c'est une manière très cynique de voir les choses. Le problème étant que si tu prépares au conflit, les autres se sentent obligés d'en faire de même. Exactement, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est un serpent qui se mord la queue, clairement. C'est ce qu'on appelle la course à l'armement. autrement appelé la prolifération. Parce que non, mais c'est intéressant ce que vient de dire Emmanuel Macron. Puisque tout le monde se réarme et que personne ne respecte les règles, alors on va se réarmer et on va arrêter de respecter les règles. C'est QFD. Donc c'est un raisonnement circulaire, oui. C'est pour ça qu'on s'oppose à Poutine. Ah non, c'est pas moi que tu le dis, pardon. Pardon. En même temps, pourquoi est-ce qu'on serait les seuls débiles à attendre de prendre une bombe sur le coin du nez pour la morale ? Ouais, soyez pas trop sévères avec les pacifistes. Hein, je veux dire, ils ont aussi écrit l'histoire du monde, les pacifistes. On a besoin d'eux. C'est pas... Je veux dire... Je trouve ça caricatural d'opposer les va-t-en-guerre et les naïfs pacifistes. C'est... Disons que c'est une opposition forcée que je trouve un peu ridicule, quoi. C'est pas plutôt les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ça, c'est une phrase de nazi, hein, je vous rappelle. Pardon, mais les vainqueurs écrivent l'histoire, c'est ceux qui ont perdu la Seconde Guerre mondiale qui disaient ça en renfrognant comme ça, en disant « Ouais, mais de toute façon, ils ont réécrit l'histoire à leur faveur. Ils nous ont tout mis sur le dos, la Shoah et tout. » Voilà. Ouais, non. C'est une citation de Modern Warfare 2. Ah ouais ? Putain, pourtant, je l'ai poncé ce jeu, mais je me souviens pas de cette citation. En même temps, Call of Duty, c'est rempli de citations à la con, comme ça. Espèce de grande phrase. Un peu générale. Un peu nulle. Bon, de toute façon, c'est pas pour le dialogue hein, qu'on joue à ce jeu. Donc, c'est pas très grave. C'est vraiment pas très grave. Dès que tu meurs, t'as une citation, c'est vrai. Avec le coup d'un missile, je sais pas quoi. J'ai un article que j'ai envie de vous lire, les copains, j'ai envie qu'on le lise ensemble. En fait, c'est un article du correspondant à Washington, du Figaro, qui parle de la guerre en Iran qui a été déclenchée par les États-Unis. Par les États-Unis. Hop. Attendez, je vais virer ça. Boum. En déclenchant une nouvelle guerre contre l'Iran, Donald Trump engage son pari le plus risqué. Adrien Jolms, correspondant à Washington, je ne sais pas comment se prononce son nom de famille, désolé. Décryptage. La mort de Khamenei ouvre un nouveau chapitre au Moyen-Orient, alors que Trump mise sur un soulèvement populaire pour renverser le régime iranien. Donald Trump a annoncé la mort du guide suprême iranien samedi, quelques heures après le début de l'attaque contre l'Iran. Merci Gérard. Khamenei, l'un des personnages les plus malfaisants de l'histoire, est mort, a écrit le président américain sur le réseau Truth Social. Il n'a pas pu échapper à nos services de renseignement et à nos systèmes de traçage hautement sophistiqués, a ajouté Trump. Grâce à notre étroite collaboration avec Israël, ni lui ni les autres dirigeants qui ont été tués avec lui n'ont pu faire quoi que ce soit. Le raid contre le guide suprême iranien semble avoir précipité la décision de lancer l'opération. Attends, c'est le raid contre le guide suprême qui a précipité la décision de lancer l'opération ? Ok. D'après le Wall Street Journal, les Israéliens auraient profité d'une réunion entre Khamenei et plusieurs hauts responsables iraniens, dont le chef des gardiens de la Révolution, pour frapper. Trump a aussi réitéré ses appels au peuple iranien à se soulever et les forces de sécurité du régime à déposer les armes.
Espérons que le corps des gardiens de la Révolution et la police se joindront pacifiquement avec les patriotes iraniens et travailleront ensemble comme une seule unité pour redonner au pays la grandeur qu'il mérite, a écrit Trump. Alors c'est vrai que j'ai lu ce week-end que Donald Trump en appelait directement aux Iraniens en leur disant « démerdez-vous ». Enfin, il espère une espèce de manière un peu bizarre de faire un follow-up sur son opération militaire en disant « bon, on a buté le guide, maintenant c'est à vous de faire ». C'est à vous de vous démerder pour reprendre votre pays en s'appuyant sur les révoltes qu'il y a eu il y a quelques semaines, il y a quelques mois même plutôt. Ouais, je trouve ça très poker menteur. Merci Jésus Berry. Je trouve ça très rock'n'roll, ouais. Ce processus devrait bientôt commencer car non seulement Khamenei est mort, mais le pays a été en un seul jour très fortement détruit, voire anéanti. Il a cependant annoncé que les bombardements intensifs et précis se poursuivront toutefois sans interruption tout au long de la semaine et aussi longtemps que nécessaire pour atteindre notre objectif de paix dans tout le Moyen-Orient et en fait dans le monde entier. Point d'exclamation, écrit en majuscule. C'est une citation du président des États-Unis d'Amérique. Hein. C'est toujours bien de se rappeler le genre de bonhomme à qui on a affaire. Trump a pris le pari le plus risqué de sa présidence en lançant une opération militaire d'envergure contre l'Iran. Avec Israël pour seul allié, les pays arabes et les occidentaux ayant décliné de participer à l'opération, le président américain vient de déclencher au Moyen-Orient une nouvelle guerre aux objectifs multiples et peu clairs contre l'un des pays les plus peuplés de la région. Ça, j'aimerais bien en savoir plus effectivement sur la clarté des objectifs que se fixe lui-même Donald Trump. J'ai pas l'impression qu'il soit très précis dans ce qu'il explique. Trump n'a guère pris la peine d'expliquer aux Américains les motifs de ce nouveau conflit alors qu'il déployait ces dernières semaines un énorme dispositif militaire au Moyen-Orient. Ça, on s'en souvient, il avait ouvert des négociations sous la menace, évidemment, de ses forces armées présentes dans la région en nombre. Mardi dernier, il avait fait brièvement référence à l'Iran à la fin de son discours sur l'état de l'Union en expliquant que les Iraniens ne devaient pas être autorisés à posséder une arme nucléaire. Il n'a pas non plus demandé l'autorisation du Congrès. Décidément, je préfère en rire, hein, je suis désolé, mais c'est pas très drôle. Donald Trump en a absolument rien à foutre de la démocratie, du respect du formalisme de l'état de droit américain. Il déclenche des guerres à l'autre bout du monde sans que personne n'ait quoi que ce soit à lui dire, sans qu'il ait besoin d'expliquer quoi que ce soit. Au niveau du droit américain, Trump n'est pas censé demander l'accord du Congrès avant d'engager une guerre. Si, si. Si, si. Si tu me poses la question d'un point de vue strictement juridique, la réponse est oui. Notre objectif est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes que représente le régime iranien, un groupe cruel composé d'individus très durs et terribles, a annoncé Trump dans une vidéo enregistrée diffusée alors que les premières salves de missiles Tomahawk et les premiers avions atteignaient leur cible en Iran. Il a aussi mentionné des activités menaçantes de l'Iran qui mettent directement en danger les États-Unis, nos troupes, nos bases à l'étranger et nos alliés à travers le monde. C'est très vague. En gros, il faut absolument protéger les Américains contre les méchants, parce qu'ils sont très très méchants. D'accord ?
A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages
79,
for 444 days.
Voilà, il a toujours pas digéré.
In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole.
C'était un navire américain qui avait été attaqué.
Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American...
Attendez, excusez-moi, je fais pause, mais en Irak, il y avait des combattants iraniens? Du côté de Saddam Hussein? Ça vous dit quelque chose, ça? Je sais pas, peut-être, hein? Oui, il y en avait? Des proxys? Ah, peut-être. Des milices chiites? Ah, ouais, des milices chiites. Ouais. Oui, non, ça a du sens. Oui, d'accord, ok. D'accord. Makes sense.
A short time ago.
Alors, j'en étais où?
And it was any longer. From American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's number one state sponsor of terror, and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordo, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions, and we can't take it anymore. Instead, they attempted to rebuild their nuclear program and to continue developing long-range missiles that can now threaten our very good friends and allies in Europe, our troops stationed overseas, and could soon reach the American homeland. Just imagine how emboldened this regime would be if they ever had and actually were armed with nuclear weapons as a means to deliver their message. For these reasons, the United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world and attack our forces and no longer use their IEDs or roadside bombs, as they are sometimes called, to so gravely wound and kill thousands and thousands of people, including many Americans. And we will ensure that Iran does not obtain a nuclear weapon. It's a very simple message. They will never have a nuclear weapon. This regime will soon learn that no one should challenge the strength and might of the United States Armed Forces. I built and rebuilt our military in my first administration, and there is no military on earth even close to its power, strength, or sophistication. My administration has taken every possible step to minimize the risk to U.S. personnel in the region. Even so, and I do not make this statement lightly, the Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. That often happens in war. But we're doing this not for now. We're doing this for the future, and it is a noble mission. We pray for every service member as they selflessly risk their lives to ensure that Americans and our children will never be threatened by a nuclear-armed Iran. We ask God to protect all of our heroes in harm's way, and we trust that, with his help, the men and women of the armed forces will prevail. We have the greatest in the world, and they will prevail. To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or, in the alternative, face certain death. So, lay down your arms. You will be treated fairly with total immunity, or you will face certain death. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. Stay sheltered. Don't leave your home. It's very dangerous outside. Bombs will be dropping everywhere. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. For many years, you have asked for America's help, but you never got it. No president was willing to do what I am willing to do tonight. Now you have a president who is giving you what you want. So let's see how you respond. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. Now is the time to seize control of your destiny and to unleash the prosperous and glorious future that is close within your reach. This is the moment for action. Do not let it pass. May God bless the brave men and women of America's armed forces. May God bless the United States of America. May God bless you all. Thank you.
J'ai eu l'impression de me faire engueuler. Alors, le fait que le micro sature, ça aide pas. Hein. Le fait que le micro sature, ça aide pas. Mais c'est fou, ça. Pourquoi tu m'engueules ? Moi, j'ai rien fait dans l'histoire. Bon, merci Le Figaro pour la traduction, en tout cas. Même si Donald Trump n'est pas très compliqué à comprendre. Il utilise un anglais très simple. C'est ta faute, Jean. Ouais, ça doit être ça. Non, mais donc on retrouve une série de griefs que fait Donald Trump au régime iranien, mais ça, il n'y a rien de nouveau. Et on retrouve surtout le grief central qui est le programme nucléaire iranien. La volonté des Iraniens de se doter de l'arme nucléaire. Alors moi, je me souviens qu'il y a quelques mois, Donald Trump avait fait un raid de bombardiers, des bombardiers B2 qui avaient bombardé des installations du programme nucléaire iranien. Merci, Xi Jinping. Merci. Moi, je me souviens qu'il avait déjà bombardé des usines, des sites de production d'enrichissement nucléaire, etc. Visiblement, ça a pas suffi. Enfin, je sais pas, je connais pas les tenants, les aboutissants du truc, surtout les aboutissants, mais il en a parlé des bombardements des 3 usines nucléaires. Bah ouais, mais bon, du coup, morale de l'histoire, c'est que ça suffisait pas, quoi. Et ensuite, il termine son discours avec, on le reconnaît avec ce que je disais tout à l'heure, cette espèce d'invitation au peuple iranien à se démerder tout seul, en se présentant comme le sauveur, en disant vous avez la chance d'avoir un président qui vous offre ce que vous vouliez, maintenant c'est à vous de jouer, prenez le pouvoir dans votre pays. Prenez le pouvoir dans votre pays, c'est, je sais pas, c'est à votre tour de jouer, etc. Je dis mais t'es marrant, ça marche pas comme ça. ça fonctionne pas comme ça. Il y a des assassinats ciblés depuis des années, des scientifiques de la filiale nucléaire aussi. Il n'y a rien de nouveau ici. Mais non, il n'y a rien de nouveau, effectivement, dans la volonté de Donald Trump de détruire le programme nucléaire iranien, ça c'est clair. On se souvient que Barack Obama avait fait un accord international avec l'Iran pour limiter le programme nucléaire iranien à des applications civiles qui limitaient l'enrichissement nucléaire. On se souvient que Donald Trump, dans son premier passage à la Maison-Blanche, avait annulé cet accord Obama. Merci Noaga. Et depuis, ouais, il fait des opérations militaires, mais bon, c'est jamais suffisant pour lui, quoi. On peut aussi l'entendre comme on ne veut pas gérer le pays comme en Irak. Donc là, je vous laisse votre autodétermination. Je suis d'accord avec toi. J'ai cru comprendre que Donald Trump n'avait pas l'intention d'avoir des troupes au sol en Iran. Il ne veut pas des militaires américains en Iran. Il veut bien faire des missiles, il veut bien lâcher des bombes. Survoler le territoire, ça lui va, mais se poser sur le territoire, ça l'emmerde, il ne veut pas s'installer. Du coup, est-ce qu'il y a des soulèvements dans le pays ou pas du tout? À l'heure où je te parle, moi, j'ai rien lu qui laisse entendre qu'il y ait des soulèvements dans le pays. Il y a eu des manifestations de joie à la mort du guide Khamenei. Il y a eu des manifestations de soutien aussi à Khamenei, des gardiens de la Révolution qui sont descendus dans la rue pour manifester leur colère suite à la mort de leur guide suprême. Mais on n'est pas dans une manifestation massive à mesure de renverser le régime, quoi. À ce stade. Là, on n'est que le 2 mars. C'est un peu compliqué de se révolter sous les bombes. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je suis d'accord avec toi. « 47 ans de régime, ça se réforme pas en une semaine. » Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ça reste... C'est très hasardeux, en fait, à ce stade. C'est très hasardeux, cette guerre déclenchée par Donald Trump. Je sais pas très bien ce qu'il... Enfin, quels sont les objectifs militaires précis, quels sont les objectifs politiques. Je sais pas. On continue à lire l'article. Longue liste de griefs. Le président américain a aussi dressé la liste des anciens griefs contre la République islamique et les États-Unis. Depuis 47 ans, le régime iranien scande mort à l'Amérique et mène une campagne incessante de sanglants massacres et d'assassinats de masse visant les États-Unis, nos troupes et des innocents dans de très nombreux pays. L'Iran occupe une place particulière dans la conscience collective américaine. Depuis sa fondation lors de la révolution de 1979, merci Quick. La République islamique a fait de l'hostilité envers les États-Unis le grand Satan, l'une de ses raisons d'être. Les drapeaux américains continuent d'être brûlés ou piétinés dans les cérémonies officielles à Téhéran. Trump a rappelé la longue prise d'otage de l'ambassade américaine qui avait coûté à Jimmy Carter sa réélection en 1980. Cet épisode avait été une humiliation majeure pour les États-Unis et en particulier pour la génération de Donald Trump. Il a aussi mentionné l'attentat contre la base des Marines sur l'aéroport de Beyrouth en 1983 qui avait contraint Ronald Reagan à évacuer le Liban et la sanglante campagne menée dans les années 2004-2006 par l'Iran via les milices chiites irakiennes qui avait coûté la vie à des membres de centaines de soldats américains en Irak. Pardon. Ok, d'accord. Il a aussi ajouté les raisons plus récentes, en rappelant les menées déstabilisatrices de l'Iran à travers le Moyen-Orient. Les mandataires du régime ont continué à lancer d'innombrables attaques contre les forces américaines stationnées au Moyen-Orient ces dernières années, ainsi que contre les navires militaires et commerciaux américains dans les zones de navigation internationales. Il s'agit d'une terreur de masse et nous ne sommes plus disposés à la tolérer. Du Liban au Yémen et de la Syrie à l'Irak, le régime a armé, entraîné, financé des milices terroristes qui ont ensanglanté la terre, a continué Trump. Et c'est le mandataire de l'Iran, le Hamas, qui a lancé les attaques monstrueuses du 7 octobre 2023 contre Israël, massacrant plus de 1000 innocents, dont 46 Américains, tout en prenant 12 de nos citoyens en otage. Ce fut un acte brutal, comme le monde n'en avait jamais vu auparavant. La décision de Trump va obliger ses partisans et les analystes de politiques étrangères à revoir une nouvelle fois leur position. Depuis ses débuts en politique en 2015, Trump avait été un critique virulent des aventures militaires américaines à l'étranger. Oui, bien sûr, notamment la guerre en Irak de George Bush. Évidemment. Il avait accusé ses prédécesseurs démocrates comme républicains d'avoir déclenché des guerres sans fin au Moyen-Orient, dilapidant les ressources et les vies américaines. Dans les milieux MAGA, le terme de néoconservateur était devenu un anathème. Le retour au pouvoir de Trump avait été décrit comme celui d'un nouvel isolationnisme où les États-Unis resteraient à l'écart des conflits internationaux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Rappelez-vous, quand Trump est revenu au pouvoir, on a tous reparlé d'isolationnisme. C'était redevenu le terme qu'on utilisait pour désigner la politique américaine de Donald Trump, qui ne voulait plus entendre parler des politiques aventurières du régime américain ailleurs dans le monde. Et on s'attendait, en tout cas moi aussi, je m'attendais à ce que Donald Trump continue cette stratégie-là, celle de l'isolationnisme, et non pas d'un interventionnisme à tout craint. Décidément, Donald Trump est imprévisible. On va dire ça comme ça. Après, ce que Trump reproche beaucoup aux néocons, c'était les interventions terrestres. Visiblement, c'est pas ce qui va se passer en Iran ni au Venezuela. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que Donald Trump ne veut pas répéter les erreurs de ses prédécesseurs et notamment organiser des déploiements sur le terrain pour ne pas se retrouver dans des bourbiers. Donc, il privilégie des bombardements, des interventions aériennes, en gros. Après, ce qu'il a l'air de dire, c'est que la situation a changé. Elle n'a pas changé, la situation. Je veux dire, Donald Trump lui-même reconnaît que ça fait 47 ans que la République islamique d'Iran en fout plein la tronche aux États-Unis. C'est pas nouveau, c'est pas récent. Il les a déjà bombardés une fois. Ouais. Je suis beau. Mais depuis le début de son second mandat, Trump a eu recours fréquent à la force armée. Il a lancé des opérations contre le Yémen, la Syrie, l'Irak, la Somalie, le Nigeria et l'Iran. Sa décision la plus conséquente avait été de rejoindre, en juin 2025, la campagne aérienne d'Israël contre Téhéran. Voilà, c'était celle-là, en juin dernier. L'opération Midnight Hammer, le raid ordonné par Trump contre les installations nucléaires iraniennes, avait été le point culminant de toute cette guerre de 12 jours. Mais Trump avait aussi alors forcé les Israéliens à suspendre leur campagne de destruction méthodique de l'appareil politique et militaire iranienne, offrant ainsi un répit au régime de Téhéran. Le raid des bombardiers furtifs américains B-2, qui avait largué des bombes puissantes anti-bunker sur les usines nucléaires souterraines iraniennes, avait cependant marqué Trump. Il avait depuis placé une maquette de l'avion furtif sur son bureau. Mais le programme nucléaire qu'il avait annoncé avoir été oblitéré avait, selon lui, repris. « Nous avons détruit le programme nucléaire du régime à Fordo, Natanz et Ispahan », a dit Trump. Après cette attaque, donc il parle bien de l'attaque de juin dernier, Midnight Hammer. Après cette attaque, nous les avons avertis de ne jamais reprendre leur quête malveillante d'armes nucléaires et nous avons cherché à plusieurs reprises à conclure un accord. Mais l'Iran a refusé, comme il le fait depuis des décennies et des décennies. Au lieu de cela, ils ont tenté de reconstruire leur programme nucléaire et de continuer à développer des missiles à longue portée qui peuvent désormais menacer nos très bons amis et alliés en Europe, nos troupes stationnées à l'étranger et qui pourraient bientôt atteindre le territoire américain. Pour ces raisons, l'armée américaine a entrepris une opération massive et continue afin d'empêcher cette dictature radicale et très malfaisante de menacer l'Amérique et nos intérêts fondamentaux en matière de sécurité nationale. Nous avons détruit leurs missiles et rasé leur industrie de missiles. Elle sera à nouveau totalement anéantie. Nous allons anéantir leur marine. Nous allons veiller à ce que les mandataires terroristes de la région ne puissent plus déstabiliser la région ou le monde et attaquer nos forces. Et qu'ils ne puissent plus utiliser leurs engins explosifs improvisés et leurs bombes artisanales, comme ils les appellent parfois, pour blesser gravement et tuer des milliers et des milliers de personnes, dont de nombreux Américains. Mais en même temps, si t'as pas d'Américains sur le sol, ça va pas changer grand-chose. Et nous veillerons à ce que l'Iran n'obtienne pas d'armes nucléaires. C'est un message très simple, ils n'auront jamais l'arme nucléaire. Bon, je vais pas continuer l'article, parce que de toute façon, c'est un article qui se borne à reprendre la déclaration de Donald Trump et à l'expliquer. Ouais. Il n'y a pas que l'Iran qui a été visé par Donald Trump, ou alors ce sont des répliques de la part de la part d'Israël ou de la part de l'Iran, mais il y a aussi les Émirats arabes, il y a Dubaï aussi, j'ai vu, qui avait été visé. Les alliés en Europe, comme le Danemark, qu'il veut aussi annexer. Oui, bien vu, t'as raison. Oui, c'est l'Iran. C'est l'Iran qui a attaqué Dubaï. Ils ont attaqué quoi d'autre ? Chypre. Chypre, c'est venu de l'Iran ou c'est venu du Hezbollah ? L'Iran a visé des pays qui ont des bases américaines sur leur sol. Ok, d'accord. J'ai vu qu'il y avait une base française aussi qui avait été atteinte. En tout cas, alors, je crois que c'est plus compliqué que ça. C'est pas une base française, c'est une base militaire sur laquelle il y a des militaires français qui a été visée par un missile qui n'a pas fait de victimes. Si j'ai bien compris, c'est ce que j'ai compris. Le Koweït a abattu des chasseurs américains sans faire exprès. Oui, j'ai vu qu'il y a des F-15 américains qui avaient été abattus par le Koweït, qui visiblement se sont trompés de cible. Descendre un F-15 américain par erreur, c'est pas une bonne idée. Ils ont fermé le détroit d'Ormuz. Ouais, le détroit d'Ormuz a été fermé. J'ai vu que ça s'était affolé dans les bourses du monde entier, notamment sur le pétrole. Après, l'Iran a attaqué des bases militaires américaines, d'où sont partis des avions qui ont bombardé l'Iran, donc c'est plutôt légitime. Oui, c'est un acte de défense du régime iranien, de l'armée iranienne. La grosse raffinerie en Arabie Saoudite a été bombardée aussi. Ça fait beaucoup de pays impliqués. De fait, ça fait beaucoup de pays impliqués. Je ne sais pas si depuis ce matin, les attaques ont repris en Iran de la part des États-Unis. Je ne sais pas si l'Iran a réussi à frapper suffisamment les bases militaires pour empêcher les Américains d'attaquer. Faut-il rapatrier les influenceurs exilés fiscaux ? Ah bien sûr ! Ah mais moi je suis pour ! Tous les ressortissants français à Dubaï sont invités à revenir sur le territoire national et ils auront rendez-vous avec l'administration fiscale dans un second temps. On fera le point. On n'est pas des gens méchants, nous. Non, il n'y a pas de souci. Revenez. Revenez, installez-vous. Rentrez à la maison. N'oubliez pas vos déclarations URSSAF. L'aéroport de Dubaï a été touché, donc il n'y a pas de retour possible pendant plusieurs jours. Ouais, j'ai vu ça. Il y a des ressortissants français qui sont bloqués à Dubaï, visiblement. Des influenceurs qui filment depuis les fenêtres de leur hôtel les missiles et les bombes qui visent Dubaï. Le Monde à l'instant, Donald Trump refuse d'exclure l'envoi de troupes au sol en Iran. Oui, mais c'est normal. Enfin, oui, peut-être. Mais c'est pas étonnant que Donald Trump exclue à ce stade l'envoi de troupes au sol. Dans un entretien accordé au New York Post, le président américain a affirmé lundi ne pas exclure l'envoi de troupes au sol en Iran si cela s'avérait nécessaire, estimait par ailleurs que l'offensive américaine était très en avance sur le calendrier après l'élimination de nombreux hauts responsables iraniens. Ça, c'est la brève du journal Le Monde qui vient de tomber à l'instant. Oui, mais c'est normal. Enfin, le fait qu'il n'exclut pas l'envoi de troupes au sol ne veut pas dire qu'il a envie d'en envoyer. Sinon, il l'aurait déjà fait, je pense. Non, je pense que, comme ce qu'on disait tout à l'heure, Je pense que Donald Trump n'a pas envie de refaire les erreurs des néoconservateurs de George Bush Jr. Il garde la menace. Oui, voilà, c'est ça, il garde la menace. Les mecs s'exilent pour ne pas payer d'impôts, mais ils veulent que nos impôts servent à les rapatrier. Non, pas forcément. Non, non, pas forcément. Ils ne veulent pas forcément être rapatriés aux frais de l'État français. Non, non. Ils peuvent se rapatrier tout seuls comme des grands en achetant un billet d'avion. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'on sera heureux de les accueillir en France. Ça nous fera plaisir. Et que dans le processus, il va y avoir un rendez-vous avec l'administration fiscale. Ça me paraît bien normal. Pour prendre des nouvelles. Ouais, pour prendre des nouvelles. Comment ça va? Comment ça s'est passé? C'était sympa. Alors nous, on a tenu une calculette. On a utilisé une calculette pendant que vous n'étiez pas là. On a regardé un peu. Puis on va discuter. On peut même vous proposer un petit échéancier. On n'est pas des bêtes. On n'est pas des bêtes. Vous voulez un café, c'est offert. Le café est offert. Le café est offert par l'administration fiscale. Merci ZPU. ZPU. Merci, merci. Merci Katpibara. On envoie l'URSA faire force pour les récupérer. un avion affrété par le fisc pour aller chercher les exilés fiscaux. Bon, après, le fric qu'ils ont généré en étant exilés, ça leur appartient. On peut pas le taxer. Mais par contre, le fric qu'ils vont générer en France, celui-là, il sera soumis évidemment aux règles françaises. Est-ce que l'arme nucléaire pourrait servir à dissuader les députés de dire des conneries? Quels députés qui disent quoi comme conneries? De quoi tu parles? Ce serait très drôle, un avion estampillé URSAF. En vrai, ce serait marrant. J'ai du mal à suivre. Tout a l'air de s'embraser. Le discours de Macron sur le nucléaire, c'est en réaction à ce qui se passe en Iran ou c'était déjà prévu? Je pense que c'était déjà prévu, mais que ça tombait bien pour Macron. Puisque le fond de son discours qu'on a écouté tout à l'heure, c'était de dire précisément qu'on a du mal à suivre et que tout est en train de s'embraser, pour reprendre tes termes. Donc, oui, Emmanuel Macron, il est tombé à pic dans une actualité internationale particulièrement chaude et incertaine et dangereuse pour délivrer un discours sur le nucléaire, la dissuasion nucléaire française, la dissuasion avancée, comme il l'a appelée, qui inclurait du coup nos voisins européens. Macron a d'ailleurs dit que sur l'Iran, il en reparlerait plus tard, donc je pense que c'était pas directement issu de ça. Ouais, c'est vrai, il a eu une phrase pour évacuer un peu le dossier iranien. Donc je pense que c'était prévu de longue date. De toute façon, il n'aurait rien dit. on lui aurait reproché. On fait ce qu'on veut. Hein. C'est un discours qui intervient une fois par mandat. Traditionnellement, notre doctrine est, est en grande partie orale. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Et on a déjà eu des présidents de la République qui se sont exprimés sur la dissuasion nucléaire. Ça fait vraiment du sens de parler de nucléaire dans un conflit armé ? Bah, ça a plus de sens qu'à un autre moment, en tout cas. Parce que disons que c'est le sujet. Enfin, c'est le sujet de manière indirecte, parce que la dissuasion nucléaire, c'est si jamais la France ou ses intérêts vitaux sont menacés, ce qui n'est pas le cas, là, dans le contexte. Les États-Unis ont déclenché une guerre contre l'Iran. L'Iran a répliqué en touchant des pays qui accueillent des bases nucléaires, des bases militaires, pardon, américaines. Ça, disons que ça ne vise pas tout de suite la France, quoi. Ce qui ne veut pas dire que la France n'a rien à dire dans le concert des nations, dans l'actualité. Est-ce qu'on a intérêt à rejoindre les USA et Israël dans le conflit ? Ah, moi, je ne pense pas. Ah non, 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 non. Ah non, non. Je ne pense pas du tout que la France ait intérêt à rejoindre les États-Unis et Israël dans ce conflit contre l'Iran. Conflit qui a été fait n'importe comment, décidé sur un coup de tête par Donald Trump, sans prévenir le Congrès. Enfin, il n'y a rien qui va. Hein. Vis-à-vis de ce que porte la France traditionnellement, historiquement, sur le respect du droit international, vu tout ce que vient de dire Emmanuel Macron, non. Là, franchement, De Villepin doit avoir de l'urticaire. Ah bah De Villepin, il a réagi sur Insta. Il nous a encore fait, il nous a encore gratifié d'un message. Attends, faut que je le retrouve. Tiens, j'ouvre Instagram, devinez sur quoi je tombe. Pas mal. Bah si, c'est bien. Si, c'est bien. Bon, j'en étais où? À part ce genre de conneries, n'hésitez pas à suivre Backseat sur Instagram, évidemment, pour être tenu au courant de ce genre de choses. Merci, docteur Acarel. Hop. Alors, Dominique de Villepin, qu'est-ce qu'il a dit ? L'Iran en finir avec la tragédie, retrouver le chemin d'espoir. Texte de Dominique de Villepin. Le peuple iranien souffre depuis 50 ans de l'oppression d'un régime tyrannique et meurtrier, des ambitions impériales de ce régime qui déstabilise toute la région et de la pauvreté induite par les sanctions. Aujourd'hui, il est pris en étau entre les bombes venues du ciel et les mitrailleuses d'un appareil répressif qui, sous la guerre, ne se fissure pas, il se raidit. Je mesure l'angoisse et les attentes du peuple iranien et les diasporas à travers le monde appelant à une libération du régime des mollahs après avoir éprouvé l'effroi face au massacre de dizaines de milliers de femmes et d'hommes. Je veux dire clairement que cette aspiration à la liberté est légitime et la souffrance immense. Cette intervention prétend tenir compte de cette aspiration. Elle l'invoque, elle s'empare. Mais en réalité, elle ne prend à aucun moment en compte les intérêts du peuple iranien. Elle n'a pas l'ambition... Attends, de quoi il parle ? L'angoisse et les attentes ? cette aspiration à la liberté. Non, cette intervention. Il parle de l'intervention américaine. Elle n'a pas l'ambition de servir le rétablissement de la liberté et de la démocratie en Iran. Elle ajoute de la souffrance à la souffrance quand des dizaines d'innocents meurent dans une frappe touchant une école de filles dans le sud de l'Iran. Elle obéit à une logique de puissance, de coercition et de sécurité immédiate. Les peuples deviennent un argument, jamais une finalité. Cette nouvelle guerre déclenchée par Israël et les États-Unis contre l'Iran ne sert ni la paix, ni la démocratie, ni le droit. Elle est conduite en dehors de tout cadre collectif. Elle ouvre une spirale de représailles dont personne ne maîtrise ni l'issue, ni l'ampleur, ni le coût humain. Il y a du cynisme et même une forme de lâcheté à jeter en l'appelant au soulèvement un peuple sous les mitrailleuses du régime sans lui donner les moyens et les appuis d'y parvenir, comme il y a une irresponsabilité à exposer les pays du Golfe et du Moyen-Orient aux bombes et aux flammes sans pouvoir garantir leur sécurité, ni aujourd'hui, ni demain. Je regrette aussi que les négociations n'aient jamais été menées à leur terme. À force de décourager les bonnes volontés des puissances médiatrices, on facilite encore davantage le recours automatique à la guerre. L'écrasement de toute dissidence. Le Moyen-Orient est malade de l'oppression des peuples, mais cette guerre, pas plus qu'une autre, n'est en mesure d'instaurer la démocratie. Sans engagement d'hommes au sol, le régime pourra survivre et se durcir encore. Sous les frappes, ce sont les gardiens de la révolution et les Basidjis qui gagnent. L'état d'exception, la peur, les purges, les exécutions de masse, la fermeture d'Internet, l'écrasement de toute dissidence. Même si chaque peuple et chaque nation sont uniques, s'il n'y a un engagement au sol, nous serions... S'il y avait un engagement au sol, nous serions dans une situation analogue à celle de l'Irak en 2003, où la chute d'un dictateur sanguinaire a débouché sur une décennie de guerre civile sanglante. Un régime qui naîtrait de ces conditions ne serait ni stable ni légitime. Une démocratie ne s'exporte pas par ultimatum. Elle se construit par des institutions, des garanties, un état de droit et par la volonté d'un peuple librement exprimé. Aucune intervention militaire conduite pour changer le régime d'un grand pays vers la démocratie n'a jamais atteint son but. Attends. Aucune intervention militaire conduite pour changer le régime d'un grand pays vers la démocratie n'a jamais atteint son but. On en parle du débarquement ? Quand même. Entre nous. Pas mal. Le Japon, ouais, le Japon aussi. Bon, il s'est passé 2-3 trucs dans les années 40 quand même. Bon, ouais, c'est un détail. Non, mais je chipote. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Non, mais je rigole. Mais je vois ce qu'il veut dire. Il parle de l'Irak, il parle de toutes ces tentatives aventureuses d'imposer la démocratie par des bombes, etc. Au demeurant, je suis d'accord avec lui en plus. Le Moyen-Orient est malade du virus impérial, mais on ne guérit pas les empires par d'autres empires. Aujourd'hui, les États-Unis et Israël s'arrogent un droit absolu d'intervenir partout et à tout moment sans avoir de compte à rendre à la communauté internationale. C'est le cas, outre en Iran aujourd'hui, dans le sud de la Syrie et dans le sud du Liban. Ce précédent est explosif. Il installe l'idée qu'au Proche-Orient, la règle cède devant la force et que chaque puissance peut devenir juge et partie au nom de sa prévention. Remplacer un empire iranien par un autre empire n'aura en rien créé les conditions d'une paix durable. Il y a désormais deux issues. Soit la répétition constante de la même logique de bombardement dans une stratégie de la tondeuse à gazon, comme dit l'armée israélienne, étendue à une grande région du monde. Soit la transformation de l'Iran en proxy de l'axe Washington-Tel Aviv. Oui. Mais un Iran vassalisé serait une bombe politique à retardement. Il produirait mécaniquement de nouvelles oppositions, de nouvelles radicalités, de nouvelles déstabilisations, parce qu'on n'humilie pas durablement une nation sans fabriquer demain la revanche. Cette dynamique pourrait réactiver le terreau du terrorisme et alimenter la tentation généralisée de la prolifération. Prolifération, oui. Le rôle de l'Europe. Le Moyen-Orient est malade de la pauvreté et du mal développement avec des inégalités de richesses colossales. Cette guerre, en installant l'insécurité et en rendant l'économie captive des armes, détourne les ressources des peuples vers la survie et la rente et accélère l'évasion des richesses au profit de logiques de puissance. Cette guerre, qui ne peut être étrangère à la volonté de maîtrise des ressources pétrolières du Moyen-Orient, ne produira que l'évasion supplémentaire des richesses régionales et un nouvel approfondissement des fractures sociales. La France ne peut s'associer à une telle démarche unilatérale. À ma connaissance, la France ne l'a pas fait. Il existe une autre voie, la seule responsable, celle du droit et de la politique. Il faut d'abord arrêter l'escalade, faire cesser les frappes et les représailles, protéger prioritairement les civils, ouvrir des canaux de désescalade et de prévention des incidents. Il faut ensuite remettre la crise dans un cadre légitime collectif, de légitimité collective, par une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Eh ben ça, bon courage. Hein. L'Europe a un rôle à jouer par la mobilisation d'une coalition politique de puissances européennes et régionales capable de se porter garante d'une transition négociée vers la démocratie et d'une reconstruction ambitieuse du pays. Ouais. Non, mais oui, oui, dans l'idée, oui. Oui, que l'Europe prenne le leadership d'une reconstruction de l'Iran et apporte les garanties d'état de droit, etc., oui. Faut voir le cadre du truc, hein. L'ambition serait d'arracher à l'emprise du régime le plus grand nombre de forces économiques, sociales et politiques. Il faut enfin dissocier les objectifs. Sur le nucléaire et les missiles, seule une négociation véritable, encadrée, contrôlée, peut prévenir la prolifération, car la bombe ne se combat pas durablement par les bombes. Sur les droits humains, il faut une stratégie de vérité, de preuves, de sanctions ciblées contre les responsabilités de la région, contre les responsables de la région, de la répression, pardon, et de protection des victimes, sans punir collectivement le peuple iranien. Sur l'avenir politique de l'Iran, un principe intangible doit être affirmé. Il ne peut être dicté de l'extérieur, il doit être rendu aux Iraniens, avec un horizon crédible de souveraineté, de reconstruction et de réintégration. Le Moyen-Orient n'a pas besoin d'une nouvelle guerre. Il a besoin d'un nouveau contrat, fondé sur des souverainetés viables, une sécurité collective et un développement partagé. Le courage aujourd'hui n'est pas de frapper. Le courage est de tenir la règle quand tout pousse à la rompre, parce que c'est la seule force qui protège durablement. Oui, non mais oui. Dans l'idée, oui, je suis d'accord. Oui, il faut le retour du droit, il faut le retour du droit international. L'Europe a un rôle à jouer là-dedans. C'est beaucoup d'invocations. Mais c'est des bonnes invocations. C'est-à-dire, dans l'idée, je suis d'accord, mais on en revient à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la naïveté face au cynisme. Et vous, dans le chat, vous êtes naïf ou vous êtes cynique? Voilà, il faut choisir. Et je ne veux pas accuser Dominique de Villepin de naïveté, je comprends ce qu'il veut dire. La question, c'est quelle est la capacité de la France et de l'Europe à jouer ce rôle-là? Voilà. Pourquoi pas les deux? C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Il faut être les deux. L'espoir et l'optimisme, c'est pas toujours la naïveté. Oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais je caricature. Hein. Il cherche pas de solution, il veut plaire à un électorat. Lequel? Parce que franchement, les gens qui sont acquis à Dominique de Villepin, ils le sont déjà. Hein. Et en plus, c'est même pas certain qu'il présente une candidature à l'élection présidentielle. Si c'est de ça qu'on parle. Il faut l'Europe de l'action, pas du blabla. Mais ça veut dire quoi? Non, mais je suis d'accord. Moi, je suis le premier à accuser volontairement Dominique de Villepin de faire des sorties verbeuses basées sur des principes dans un monde qui appelle plus à l'action qu'aux commentaires. Mais bon, une fois que j'ai dit ça, en fait, j'ai rien dit. Pourquoi on aurait un rôle à jouer en tant qu'Europe? Parce que l'Europe, par son histoire et par sa construction, est un espace qui valorise le droit, les règles, l'organisation collective, la discussion collective. Et que l'Europe, voilà, l'Europe a peut-être un truc à dire sur la marche du monde. parce que l'Europe s'apaise. Ça peut peser. L'Europe unie peut peser. Après, dans le dossier iranien, je vous avoue que Donald Trump, il a l'air de s'en cogner globalement de ce que raconte l'Europe. Hein. Déjà que sur le dossier groenlandais, il en a rien à foutre. Alors l'Iran... Pour les républicains, les Européens sont faibles. Pour les MAGA, plus que pour les républicains. Mais oui, oui, J.D. Vance a déjà eu l'occasion de dire tout le mépris qu'il avait pour l'Europe. Mais parce que si vous vous mettez dans le logiciel MAGA, effectivement, l'Europe, c'est à chier. C'est acheté par la fenêtre. Toute cette bande de droits de l'hommiste démocrate, dans le très mauvais sens du terme, qui se permet de donner, de donner la leçon d'état de droit à tout le monde. L'Europe est experte dans la régulation, bonne ou mauvaise, mais experte quand même. Bah oui, et ça, les Américains, ils détestent. Les réglementations européennes. L'accord de Paris sur le climat. L'accord de Paris sur le climat. Cette vaste fumisterie gauchiste qui veut limiter la capacité des Américains à extraire du pétrole. Non, mais ça va pas. Voilà. Ça, dans la tête d'un mec MAGA, oui. Ah. Le DSA, mais le DSA, oh là là, les Européens qui nous gonflent et qui veulent, ils veulent tordre le bras des GAFAM. Vous vous rendez compte, les Européens, ils veulent forcer les GAFAM à rendre semi-public leurs algorithmes. C'est une attaque intolérable contre l'Amérique. Et je cite Elon Musk, le génie Elon Musk. Ah non. Oh, l'Europe, c'est acheté par la fenêtre. Hein. C'est une attaque contre la libre entreprise. Exactement. Une attaque contre le modèle vertueux des Américains. Et puis, je vous parle même pas de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. Oh, les Européens. T'as un module pour afficher les sondages, ça y est. Ouais, ça y est. Donc, on est dans une team idéaliste. Hein. On est dans une team idéaliste dans le chat, ça fait plaisir. Je sais pas si ça fait plaisir, mais... T'es level combien dans Path of Exile pour parler ainsi de Monsieur Musk? C'est vrai ça. Qui suis-je face au génie d'Elon Musk? Petit con de streamer français qui se permettent de donner des leçons. Oh. J'ai voté blanc au sondage, ça compte. Quand tu vois les magas traités de woke, anthropiques, parce qu'ils ne veulent pas que leur IA soit utilisée pour la surveillance de masse et laisser des drones autonomes tuer n'importe qui, tu comprends qu'ils ne fonctionnent pas pareil dans leur tête. Ouais, exactement. Ah non, le débat public américain, il est sur d'autres thèmes que le nôtre. Hein. Et je ne suis pas jaloux. Je ne suis pas jaloux du tout. Je préfère notre débat public à nous. Il est plus sympa. À deux doigts d'acheter Twitch pour t'apprendre la liberté d'expression. Oh, gardez-moi du malheur. Elon Musk rachète Twitch. Oh l'enfer. Heureusement que Bezos déteste trop Musk pour lui revendre Twitch. Ouais. Après, comme Twitch est pas rentable, c'est toujours aussi le risque. Mais bon. On ira sur Kick. Non, quel enfer. C'est pas la rentabilité qui compte là-dedans. Non, c'est sûr. Non. Après, bon, sans rentrer dans le détail, parce que je le connais pas plus que ça, mais Twitch, c'est pas qu'une plateforme, c'est aussi une technologie. Technologie de streaming, d'encodage, de vidéo, de son, etc., machin, avec un player. Et cette technologie, elle est backée par tout le système, par tout le back-office d'Amazon. Amazon est une énorme entreprise informatique, comme vous le savez, qui a des serveurs informatiques phénoménaux, en très grand nombre, etc. Et en gros, Twitch ne pourrait être adossé qu'à Amazon. Il n'y a pas beaucoup de concurrents qui auraient le poids, la taille pour machin et tout. C'est AWS, exactement. C'est AWS, en l'occurrence. Donc, voilà. Je suis pas très inquiet. Je suis plus inquiet des réglementations européennes qui pourraient rentrer en vigueur pour limiter la liberté d'expression sur Internet. Et je serai auditionné par le Sénat en commission d'enquête dans 15 jours, 3 semaines, je sais plus, je vous tiendrai au courant. On pourra suivre. Et ben, je sais pas si vous pourrez suivre. J'en sais rien. Il faut que je vois comment faire. C'est quoi le thème de la convocation au Sénat? Le Sénat a lancé une mission d'information qui est en train de se transformer en commission d'enquête, si j'ai bien compris, sur le thème de la régulation des créateurs de contenu d'information sur Internet. J'ai pas plus de précision que ça à l'heure qu'il est. Et donc voilà. Donc je serai auditionné. Du coup, c'est une commission de la même forme que celle de l'audiovisuel qui a actuellement lieu, ou c'est différent car le Sénat. Non, c'est la même chose. C'est la même chose. Sauf que la commission d'enquête du Sénat n'est pas une commission déclenchée par l'extrême droite. Déjà parce qu'il n'y a pas d'extrême droite au Sénat. Et ensuite, il s'agit de la commission permanente de la culture qui s'est dotée des pouvoirs de commission d'enquête. Si j'ai bien compris. Il faut que je retrouve... Alors, c'est pas sur ça. Hop, hop, voilà. La commission de la culture, de la communication et du sport a engagé une mission d'information sur la régulation de l'information dans l'espace numérique, dont les rapporteurs sont Agnès Evren, Laurent Lafon et Sylvie Robert, 3 sénateurs et sénatrices. Pour mener cette mission d'information, le Sénat a conféré à la commission les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête. Donc c'est bien une commission d'enquête. Ou alors, il y a des subtilités que j'ai pas, mais peu importe. En réalité, peu importe. L'émergence de nouveaux acteurs tels que les grandes plateformes, les médias exclusivement en ligne, les influenceurs, ainsi que le développement rapide des outils d'intelligence artificielle ont bouleversé le paysage de l'information. La frontière entre information, commentaires, divertissement et communication s'estompe. Cette situation qui peut fragiliser la lisibilité et la crédibilité de l'information est de nature à faciliter des manipulations d'origine interne ou étrangère au risque de porter atteinte au processus démocratique. Déjà, ça m'énerve parce que ça mélange tout. Ça mélange plein de trucs et tu te dis, putain, ouais, je vois la pente glissante ou en fait, ouais, bon, non, ça va m'énerver. La régulation de ces nouvelles dimensions du paysage informationnel est récente et caractérisée par une diversité de cadres juridiques. Elle se distingue des règles unifiées appliquées par l'autorité publique française de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, au secteur audiovisuel et s'inscrit dans le cadre de la législation européenne encadrant l'activité des plateformes numériques et la liberté des médias. Oui. En l'occurrence, oui. Les règles sur Internet ne sont pas les règles de l'ARCOM. En tout cas, le cadre juridique n'est pas le cadre de l'ARCOM. Notre cadre à nous, c'est la liberté de la presse. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas dans l'ARCOM, hein. Mais ça veut dire que c'est appliqué différemment pour des raisons techniques. Identifier et mesurer. Donc le but, la mission entend identifier et mesurer les risques et les menaces qui pèsent sur l'espace informationnel français. Évaluer la robustesse du dispositif institutionnel et législatif destiné à protéger celui-ci. Proposer des pistes d'évolution pour mieux réguler l'information dans l'espace numérique et préserver l'intérêt, l'intégrité du débat public. Moi, je trouve ça bien que le Sénat se penche sur le sujet. En fait, pour vous le dire autrement, je suis plus rassuré par le Sénat que par l'Assemblée nationale. Connaissant le Sénat et sa manière de travailler et de fonctionner, il va plutôt chercher la raison dans tout ça, plutôt que les effets d'annonce et les gadgets législatifs de communication, justement, puisqu'on en parle. Donc j'espère que le Sénat va jouer son rôle de Sénat dans le processus. Est-ce que dans les libertés journalistiques, l'impartialité en fait partie ? Bien sûr que non. Quand on voit la commission à l'Assemblée, on comprend ta remarque. Ouais, vous voyez un peu l'ambiance ? Vous voyez un peu l'idée ? Donc on verra. On verra ce que ça donnera. On dirait surtout qu'ils parlent de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, est-ce qu'un débat ici sur le chat est compris dans le régulé ? Car techniquement, on est chez un influenceur d'information politique. Oui, mais c'est pour ça qu'ils font une commission d'enquête. Ils ont raison. Enfin, je veux dire, les sénateurs, ils n'ont pas la science infuse. Ils n'ont jamais la science infuse. Faire une commission d'enquête, ça sert à ça. Ça sert à se documenter, ça sert à auditionner des personnes qui savent, des chercheurs, des journalistes, des personnes qui interviennent dans le débat public sur le sujet, pour les entendre, les auditionner. Voilà, donc c'est très bien qu'ils fassent ce travail-là. Moi, je trouve ça très très bien que le Sénat fasse ce travail-là. Ils ont raison de le faire. Ils ont raison de le faire et charge à des gens comme moi de venir apporter aux sénateurs et aux sénatrices qui en sont demandeurs un témoignage, une information sur ce qui se passe, comment ça se passe et quels sont les risques. Elle est où la glissade ? Merci Garwick. Merci Nkaxi. Merci beaucoup. Tu connais les questions ? Non. Ah non, je les connaîtrai pas. Tu connais les réponses ? Je les improviserai. Qui seront les partis politiques présents ? Aucun. Il n'y a pas de parti au Sénat, il y a des groupes. Et les groupes au Sénat, c'est toujours les mêmes. Hein. Tu as les Républicains, tu as l'Union Centriste, tu as RDSE, tu as les Socialistes, les écolos et les communistes. Est-ce qu'il m'en manque dans tout ça? Je crois pas, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, LIRT et RDPI. Oui, t'as raison. LIRT, c'est les indépendants, l'équivalent de l'UIOT. Et RDPI, c'est lesquels RDPI déjà? Pour ce genre de commission, si t'es convoqué, est-ce que c'est une proposition ou tu peux accepter ou pas? Non, c'est une convocation en commission d'enquête parlementaire, c'est pas facultatif. Après, tu peux avoir des empêchements, ou tu peux justifier d'un empêchement, etc. Mais en principe, tu dois te rendre à une convocation. RDPI, c'est les macronistes. Ah, RDPI, c'est les macronistes. Ah oui, c'est le Rassemblement des démocrates. Oui, c'est bon, je l'ai. Est-ce que c'est le même truc dans lequel on a vu Samuel et Hugo Clément? Non. Samuel et Hugo Clément, vous les avez vus à l'Assemblée nationale, dans une commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. Là, ce dont je vous parle, c'est une commission d'enquête au Sénat sur les zones grises de l'information. Fin de citation. Est-ce que tu as suivi les commissions sur France TV? Oui, j'en ai même diffusé sur ma chaîne. C'est quoi une zone grise? Je sais pas. C'est eux qui ont décidé d'appeler leur commission d'enquête comme ça. Au Sénat aussi, ils changent de nom tous les 3 mois. Qui ça? Si c'est pas facultatif, est-ce que c'est indemnisé? Transport remboursé. Non. Bien sûr que non. Non, non. Et je préfère vous prévenir, le jour où vous serez convoqué devant la justice, c'est pareil. Hein. Tu ramènes ta gueule et tu la fermes. C'est à peu près tout ce qui va se passer. Il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas de prise en charge des frais, la nuit d'hôtel, le train. Non, non, non. Convocation. C'est une convocation. Sérieux, aucun frais n'est pris en charge, c'est abusé un peu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la République qui vous convoque. C'est sérieux? Enfin, il n'y a pas de « s'il vous plaît, veuillez bien vouloir, s'il vous plaît ». Non, tu ramènes ton cul, en fait, t'es convoqué. Tu demandes rien, tu te tais, tu baisses la tête, tu obéis. C'est comme la justice, c'est comme le fisc. Enfin, je sais pas, il y a des institutions comme ça... Qui convoque, en fait. T'es convoqué. Même si on ne contracte pas. Surtout si tu contractes pas. Si t'es dans un autre pays, eh ben tu le fais en visio. Ben tu leur dis. Tu leur dis que tu le fais en visio. Mais je trouve intéressant la quantité de créativité dans le chat pour essayer d'échapper à une convocation à une commission d'enquête parlementaire. Je sais pas, ça me laisse pantois. J'embrasse Pierre-Edouard Sterrin d'ailleurs, hein, s'il m'écoute. Salut les jeunes, ça nucléaire, si on a arsenal de dissuasion. Ouais, ouais, ça nucléarise ici. Même pendant la Zilane. Mais vous avez déjà été convoqué par la justice? Ça vous est déjà arrivé ou pas? Non? Oui? Oui? Jamais convoqué? Non? Non, Dieu merci? Bon, ça dépend. Ça dépend pourquoi t'es convoqué. Ça peut être en statut de victime, en statut de témoin, en statut de... beaucoup de choses. Tu fermes ta gueule et tu dis bonjour. C'est exactement ça. Ben voilà, un jour vous recevrez un courrier chez vous, peut-être même un recommandé, dans lequel il y a écrit que vous êtes convoqué à telle date, à tel tribunal, cordialement. Ben, faudra y aller. C'est une convocation. A priori, vous saurez pourquoi. Il y a quand même peu de chances que vous le découvriez. Et puis, prenez un avocat, hein. Merci, Paruline. Merci, merci. Si t'es jury, c'est pas remboursé ou indemnisé. Si vous êtes tiré au sort pour être jury d'assises, vous êtes indemnisé à hauteur de... Je sais plus, c'est 80 euros par jour ? Il y a un barème national, c'est le même pour tout le monde. Je sais plus combien c'est. C'est 100 balles par jour, ouais, ok, c'est dans ces eaux-là, quoi. L'arnaque. Alors, une arnaque, c'est quand t'es censé obtenir quelque chose en échange. Là, t'obtiens rien. T'es jury d'assises. T'es jury d'assises. Il y aura aucun plaisir, il y aura aucun fun. C'est pas un spectacle. Non, c'est... Ouais. Il y a une petite indemnisation, mais ça paye mieux que Pigiste dans certains médias. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, chers amis, que je serai jeudi à Bordeaux pour Backseat. Backseat Bordeaux. Cette semaine, une émission exceptionnelle à l'occasion du festival Imprimé qui se tient à Bordeaux et qui est un festival de médias indépendants. Nous ferons une émission Backseat à l'occasion de ce festival. On va parler des médias indépendants et nous recevrons un invité politique. Cette semaine, on reçoit Philippe Poutou. Philippe Poutou, double candidat à l'élection présidentielle, qui sera notre invité. Voilà, ça va être chouette. Donc soyez là jeudi à 19h, comme d'hab pour Backseat. Est-ce que vous serez au Frames ? Ouais, on sera au Frames. On sera au Frames, la programmation vient de sortir. Et oui, on sera bien au Frames à Avignon cette année. J'ai oublié les dates, je les ai pas en tête. Je les ai quelque part, mais pas en tête. Passer de Poutou à Stéphane Bern. On est en train de construire l'émission. Ça va être chouette. Il est revenu, Poutou ? Non, Philippe Poutou n'est pas revenu. Philippe Poutou ne sera plus candidat à l'élection présidentielle. Ça, on le sait depuis des années. Il l'a dit, redit et re-redit et encore redit. Et par contre, il est candidat aux élections municipales à Bordeaux, où il défend son siège de conseiller municipal d'opposition avec le NPA. NPA est un collectif d'acteurs bordelais d'ailleurs, ils sont pas tout seuls. Il a été triple candidat, pas double. Ah oui, triple. Oui, c'est vrai, t'as raison, triple. Bon, qu'est-ce qu'on retient de cette conférence de presse d'Emmanuel Macron ? C'était pas vraiment une conférence de presse, qui était un discours prononcé à Lille Longue, à Brest, En face d'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, Emmanuel Macron a annoncé un durcissement de la politique de dissuasion nucléaire française. Durcissement n'est pas le bon mot, parce qu'en réalité, il a annoncé que la France avait l'intention d'augmenter son nombre de têtes nucléaires. Augmenter son nombre de têtes nucléaires sans en dévoiler le chiffre exact. Et il a annoncé la mise en chantier d'un nouveau sous-marin, mais ça, on s'y attendait. Non, surtout, il a dit, il a parlé de sa nouvelle doctrine qui s'appelle la dissuasion avancée, qui inclut des pays alliés européens dans la dissuasion nucléaire française. Ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire qu'il y aura des missiles nucléaires français dans des pays européens, ça, c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que des pays européens vont opérer des missiles nucléaires français, ça, ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire non plus que la France va collectiviser la prise de décision de l'usage de l'arme nucléaire, ça, ce n'est pas vrai. La France restera la seule décisionnaire finale de l'usage de la bombe. Mais ça veut dire que, disons, le parapluie nucléaire français va protéger des pays alliés, notamment l'Allemagne et le Royaume-Uni, dans le cadre... Et puis que par ailleurs, ces pays alliés vont participer à des exercices conjoints, des exercices de dissuasion nucléaire conjoints. De ce qu'a dit Emmanuel Macron, ils avaient déjà commencé. Donc voilà. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre ? C'est à peu près... j'ai bien résumé. J'ai bien résumé. Le Royaume-Uni, ils ont déjà l'arme nucléaire. Oui, le Royaume-Uni, ils ont déjà l'arme nucléaire qui n'est pas une arme tout à fait autonome. Parce que si j'ai bien compris, l'arme nucléaire britannique, elle est surtout américaine. Ce qui n'a pas posé de problème pendant toute la guerre froide, mais qui commence à poser problème maintenant que l'autre dégénéré Orange est à la tête des États-Unis. Ils payent des brevets aux USA. Ouais, je crois qu'ils payent des brevets. De toute façon, ils opèrent des avions américains, ils opèrent le F-35. Bon, comment dire ? Si t'as une bombe nucléaire américaine qui est tirée par un F-35 américain, est-ce que c'est vraiment ta bombe ? Est-ce que t'es vraiment souverain ? Hein ? Alors je dis ça, moi je suis français, alors cocorico, alors ça pour le coup, alors ça, hey, s'il y a des trucs sur lesquels on peut se permettre de donner la leçon aux autres, c'est sûr, la souveraineté et l'autonomie en matière de dissuasion nucléaire. Nous, nos bombes, elles sont françaises, opérées par des avions français, des sous-marins français, construits, développés et opérés en France. Ça, c'est de l'autonomie, mon frère. N'est-ce pas, les Britanniques ? Ça nous coûte un bras, au moins qu'on en soit fier. Et pas n'importe quelle France. On vient pas de vendre une usine nécessaire à la bombe en Chine. À la Chine ? Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Peut-être pour des outils non essentiels. Les Iraniens, ils ont essayé de faire pareil, mais on leur a dit non. Ouais, alors après, on va pas mettre sur un pied d'égalité le régime iranien avec la République française. Ça commence à être un peu compliqué. Et les Anglois et les Germains, ils vont nous dédommager pour les couvrir ? Bah, c'est de l'influence géopolitique, donc oui. Ça a déjà été le cas. Hein. Je vous rappelle que quand la France est intervenue au Mali, Emmanuel Macron, non, pas du tout, François Hollande, a négocié avec Angela Merkel le fait que la France allait pouvoir réduire sa participation au budget de l'Union européenne. Alors, ce n'est pas exactement ça, c'est juste que dans la procédure de déficit excessif, merci TRC, dans la procédure de déficit excessif, la France a pu arguer vis-à-vis de l'Europe de l'Union européenne de son intervention militaire au Mali pour justifier le fait qu'on ait un peu dérapé niveau budgétaire. C'est un peu comme faire un excès de vitesse en ambulance. Tu vois ? Les flics, ils vont dire, bon, ok, t'es allé un peu vite, mais en même temps, tu le faisais pour une bonne raison, donc c'est ok. Ben là, c'est pareil, le dérapage budgétaire français était justifié en partie par l'augmentation des besoins opérationnels militaires français. Pour faire un truc que toute l'Europe, qui protégeait toute l'Europe. Le parapluie s'étendra en tout à 8 pays selon les annonces de Macron, l'Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Belgique, la Grèce, la Suède, le Danemark et le Royaume-Uni. Ok. Bon à savoir. On doit demander la permission pour baisser notre contribution, c'est pas de la souveraineté. Si. C'est de la souveraineté partagée. Quand on édicte des règles collectives, il faut une justification pour ne pas respecter la règle. Sinon, c'est pas une règle collective. Le Luxembourg porté disparu. Non, mais Luxembourg, c'est la banlieue française. Ils font partie du pays. C'est un département. La France n'est pas au-dessus des règles qu'elle a coécrites avec le reste de l'Union. Bah exactement. Exactement. Bon les copains, vous savez quoi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là en vous remerciant. Je vous montre quand même la proc de cette semaine. Je vous montre la proc de cette semaine. Didedidedoum, elle est là. Hop, hop. Voilà. Aujourd'hui, c'était Revue d'Actu. Alors, exceptionnellement, on a diffusé du coup le discours de Macron. Demain, on fait une revue d'actu. On parlera des excuses de Jean-Luc Mélenchon. Rendez-vous à 15h demain pour une revue d'actu. Mercredi, on fait une FAQ politique. On continue à discuter mercredi. Jeudi, on se retrouve au Festival Imprimé. Alors, je serai à Bordeaux, vous serez chez vous et vous regarderez votre émission préférée Backseat à partir de 19h ce jeudi avec Philippe Poutou. Il n'y a pas de QAG cette semaine. Non, il n'y a plus de QAG jusqu'à après les municipales. Là, on est dans la pause, on est dans les vacances parlementaires. Il y a un mois de vacances parlementaires, il n'y a plus de QAG. Donc voilà, à quand Backseat à Montpellier? Bah, quand on aura le budget, hein. Quand quelqu'un nous invitera à Montpellier. Merci les copines et les copains, merci d'avoir été là, c'était chouette, je vous fais des zoubis, passez une bonne suite d'après-midi et je vous dis à demain 15h. Salut tout le monde, à demain, ciao.